6h57, très bon réveil. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. On se retrouve lundi à 5h du matin. J'espère que d'ici là, il y aura quand même un président américain, parce que ça fait quand même 3 nuits électorales qu'on suit. Avec vous aussi, Mathieu Béliard, le 7-9 démarre. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1 et vous écoutez Le Monde Changer. Et tiens, un vrai changement dans le monde, là, dans la lutte contre les fake news, mais avec une initiative qui franchement pose question cette nuit. Cette nuit, Donald Trump prend la parole pour dénoncer des fraudes, de la triche. Et écoutez ce qu'il se passe.
Now tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever.
Well, we're interrupting this because what the President of the United States is saying in large part is absolutely untrue.
Cet homme qui coupe le président, c'est le journaliste, hein, le présentateur de la chaîne NBC. Eh bien, nous interrompons cette allocution parce que ce que dit le président Trump n'est absolument pas vrai. C'était sur NBC, mais sur nombre d'autres chaînes aussi. Après, les réseaux sociaux, vous savez, qui signalent quand un message est douteux. C'est un nouveau pas qui est franchi avec cette présidentielle. Un président coupé parce qu'il ment. Ce n'est pas anodin. Nous sommes toujours ce matin aux États-Unis en plein suspense. Je ne vais vous donner qu'un nombre pour démarrer. 1700. 1700 voix qui séparent les deux candidats en Géorgie avec 98% des bulletins dépouillés. C'est vous dire la complexité de la situation. Et tout au long de cette matinale, vous allez retrouver nos envoyés spéciaux, notre correspondant Xavier Yvon à New York, véritable tour de contrôle du dispositif Europe 1 pour ce scrutin américain. Nous sommes à Washington, en Pennsylvanie, à Chicago aussi, dans le journal à suivre, avec un jeune sénateur démocrate de l'Illinois. Ce matin, à la une également, la fin d'une première semaine de confinement.
La situation dans notre pays, elle est très sérieuse. La deuxième vague n'est donc pas une abstraction, mais elle est là et elle est violente.
L'alerte du ministre de la Santé et nos informations. Europe 1 vous révèle une note du directeur général de la Santé pour le Conseil de Défense, Jérôme Salomon, qui estime que ce confinement n'est pas assez strict. Dans le même temps, nous dévoilons ce matin les remontées des services territoriaux du renseignement. Le confinement plutôt respecté n'est pas accepté pour autant. Il y a des foyers épidémiques et des foyers de contestation. Voilà quelques éléments du programme. Ce matin, il est 6h59. Très bon réveil.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Bah oui. Écoutez, c'est meilleur que si c'était pire. Moi, en fait, quand je regarde cette carte de France, je me dis que finalement, aujourd'hui, on n'aura pas une journée aussi mauvaise que je le craignais. C'est-à-dire qu'il y aura certes beaucoup de brouillard ici, sont présents, hein, beaucoup de brouillard ce matin, mais que très vite, les éclaircies vont apparaître et puis que les nuages qui vont longer les côtes atlantiques, comme tout le sud-ouest, ces nuages ne seront pas porteurs de pluie pour aujourd'hui. Il y a une seule poche pluvieuse, c'est celle du Languedoc-Roussillon, ce sont les pluies marines. Celles qui viennent de la mer par définition et qui viennent buter contre les Cévennes avec des vents très forts, 80 à 100 km/h, à la fois pour le vent d'automne et puis pour ces vents de mer. Donc voilà, c'est une journée, je ne vais pas faire dans le détail, pas mal, avec des températures qui ce matin sont encore bien froides, entre moins 2 à Luxeuil et plus 10 à Marseille, en passant par 4 à Clermont-Ferrand et 6 à Lyon et Paris. Et dans la journée, la fourchette se situe entre 13 et 19 degrés, donc des températures tout à fait républicaines.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer. Il est 7h.
Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nouveau l'élection.
Votes illégaux, fraude, élections volées. Donald Trump continue dans sa rhétorique. Joe Biden, lui, se dit confiant dans la victoire, mais attend la fin des comptages. C'est très serré dans certains États, comme en Géorgie. Environ 2000 voix d'écart. Nous serons avec Xavier Yvon pour tenter de décrypter tout ça dès le début de ce journal. Nous appellerons aussi un sénateur démocrate à Chicago pour savoir ce qu'il pense de la dernière sortie de Donald Trump. Dans ce journal, un dossier, premier bilan du reconfinement. Nous vous dévoilerons une note secrète du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui prône un durcissement des mesures et puis on verra comment ce nouveau confinement est respecté à Paris mais aussi dans une petite ville du Nord, Orchi.
Je trouve que les gens respectent mieux entre eux le fait de porter le masque, d'avoir une distanciation. C'est pas un vrai confinement et heureusement aussi d'ailleurs qu'on puisse quand même continuer à vivre.
Et puis les épreuves d'évaluation du bac annulées pour les premières et les terminales, ce sera du contrôle continu. Jean-Michel Blanquer annonce aussi un protocole sanitaire renforcé.
Juste après ce journal, il n'y aura pas de reprise rapide en 2021. L'éclairage éco de Nicolas Barré, alors que le monde entier regarde les États-Unis. Pendant ce temps-là, Alassane Ouattara s'accroche à son siège en Côte d'Ivoire. Le regard international de Vincent Hervouette, l'édito sport de Virginie Fulpin. Et puis nous retrouverons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est vraiment un jour sans fin aux États-Unis, un suspense insoutenable, diront certains. Ce matin encore, les Américains ignorent le nom de leur futur président. Xavier Yvon, c'est vous l'homme de la situation sur Europe 1 pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Vous êtes en direct de New York, plus les heures avancent et plus ça se resserre.
Oui, je crois que l'expression la plus utilisée ces dernières heures ici, c'est « nail biter ». Ça veut dire que c'est à se ronger les ongles. Et c'est vrai qu'on voit les télés, vous avez des bandeaux avec les chiffres qui s'actualisent, qui clignotent, des jingles hollywoodiens et des images d'assesseurs qui dépouillent, notamment en Géorgie, là où c'est le plus serré. Joe Biden n'a plus que, là où on se parle, je regarde, 1479 voix de retard sur Donald Trump. Il reste moins de 1% des bulletins à dépouiller. On continue aussi à compter dans le Nevada, l'Arizona, encore indécis pour certains médias. Et la Pennsylvanie, c'est le gros morceau. Là, c'est simple. Si Trump finit par perdre la Pennsylvanie et ses 20 grands électeurs, c'est terminé. Là aussi, l'écart se réduit de manière spectaculaire, divisé par deux en deux heures, de 40 000 à près de 20 000 voix. Et les analystes des cartes électorales, maintenant bien connus, disent que ces bulletins qui restent viennent de zones très démocrates et qu'ils vont donc permettre à Joe Biden de repasser devant. Vous voyez bien que c'est à se ronger les ongles. Et donc, chez les démocrates, on essaye de diffuser de la sérénité à l'image de Joe Biden hier soir.
Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well.
La démocratie, parfois, c'est désordonné, parfois, ça demande de la patience. Je demande à tout le monde de rester calme, ça sera bientôt fini, a dit l'ancien vice-président. Et quand ça sera fini, a-t-il ajouté, nous serons déclarés vainqueurs.
Xavier Yvon, merci et bravo en fait. Xavier Yvon qui fait des maths en direct, vous l'aurez entendu comme les commentateurs de CNN. Ne bougez pas, on va vous retrouver dans quelques minutes, Xavier. Alors on a entendu Joe Biden, un peu plus tard c'est Donald Trump qui a pris la parole depuis la salle de presse de la Maison Blanche.
Oui, prise de parole plutôt confuse dans laquelle il n'hésite pas à accuser une fois encore les démocrates de vouloir lui voler l'élection.
Nous pensons que nous allons gagner cette élection très facilement. Il y aura beaucoup de procédures judiciaires. Nous avons tellement de preuves partout. Ça va peut-être se terminer devant la plus haute cour du pays. On verra. Il y aura beaucoup de recours en tout cas. Parce qu'on ne peut pas avoir une élection volée comme ça. Les démocrates n'ont jamais cru qu'ils pourraient gagner l'élection honnêtement. C'est pour ça qu'ils ont fait le coup des bulletins par correspondance, avec une énorme corruption et de la fraude.
Bonjour Robert Peters.
Hello.
Vous êtes un jeune élu démocrate au Sénat de l'État de l'Illinois. Merci d'être avec nous sur Europe 1 depuis Chicago. Donald Trump parle de vote illégal, de fraude. Rien ne l'atteste pour l'instant. Qu'est-ce qu'il essaie de faire selon vous ?
Oui, je pense que Donald Trump fait tourner son imagination. Une imagination arrogante et narcissique dans une tentative désespérée pour garder le contrôle de la Maison Blanche. Selon moi, il n'existe rien de tel qu'un vote légal ou illégal. C'est de la pure théorie du complot. Il est en train d'échauffer sa base nationaliste, ses militants les plus à droite.
Alors justement, cette mobilisation de sa base, hein, très à droite, nationaliste, ça vous inquiète ?
On est un pays avec une législation sur les armes très souple. Et si vous combinez des théories du complot paranoïaques à un projet nationaliste comme celui de Donald Trump, c'est assez inquiétant. Nous devons rester le plus vigilant possible. Je pense aussi qu'il nous faut au moins autant de monde dans un large mouvement pour contrer ce comportement extrêmement dangereux de Donald Trump.
Merci Robert Peters, élu démocrate au Sénat de l'Illinois, d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1.
Je précise que Robert Peters, que vous ne connaissiez certainement pas, occupe aujourd'hui le siège qu'occupait Barack Obama au tout début de sa carrière politique.
Ah, c'est peut-être prémonitoire, qui sait. On vous retrouve, vous aviez, Yvon, la question à $1. Est-ce que vous avez une idée du moment où on va avoir enfin le résultat ?
Je vais vous dire bientôt, hein, comme ça je m'avance pas trop. Alors ce qui est sûr, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, c'est la Géorgie qui est la plus proche de terminer. Et là, si c'est le cas, on va avoir deux sons de cloche. Parce que si Joe Biden gagne la Géorgie, alors pour certains médias, ça voudra dire qu'il a atteint les 270 grands électeurs. Mais pour d'autres médias, le compte n'y sera pas encore. Je vous explique. La différence, c'est l'Arizona. L'agence de référence Associated Press et Fox News disent que Joe Biden a gagné l'Arizona. mais pas les autres grands médias comme CNN, NBC ou New York Times qui considèrent que Donald Trump peut, en théorie, encore rattraper Joe Biden en Arizona. Donc ça peut nous donner une situation où CNN et New York Times vont attendre et c'est Fox News qui sera la première à annoncer la victoire de Joe Biden. Vous voyez que rien sera vraiment très simple dans cette élection.
Merci Xavier Yvon, en direct de New York. On vous retrouve bien sûr tout au long d'Europe Matin pour nous éclairer. Il est 7h07. Le nouveau confinement, comment est-il respecté? Une semaine après sa mise en place, est-il vraiment assez strict au vu des derniers chiffres? On va se poser quelques minutes pour répondre à ces questions.
Oui, d'autant qu'Olivier Véran a été assez alarmiste hier. Il a parlé d'une deuxième vague brutale qui se propage rapidement. 4420 patients sont en réanimation. 367 décès ont été enregistrés en 24 heures. Et ce que nous pouvons vous révéler ce matin sur Europe 1, c'est le contenu de la note que le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a présentée à Emmanuel Macron et aux participants juste avant le Conseil de défense de mardi. Cette note, vous avez donc pu la consulter pour nous, Victor Delande. Et ce qu'il en ressort, c'est que le confinement ne semble pas assez sévère.
Oui, dans cette note confidentielle qui circule entre très peu de mains, Jérôme Salomon dresse un constat alarmant. Selon lui, le confinement ne serait pas assez efficace à cause des établissements scolaires laissés ouverts, ainsi que les services publics et le maintien des visites dans les EHPAD. Avec ces mesures actuellement mises en place, il prévient, il ne semble pas possible d'obtenir un taux de reproduction du virus, vous savez le fameux R, à 0,7 comme en avril lors du premier confinement, mais plutôt à 0,9. Ce qui veut dire concrètement que l'inflexion de la courbe sera plus lente avec, je cite, un plateau haut et prolongé. Dans cette perspective de longues semaines très dures pour les hôpitaux, Jérôme Salomon estime que la région Auvergne-Rhône-Alpes, la plus touchée actuellement, aura besoin d'un soutien massif à court terme avec davantage de transferts interrégionaux et même des évacuations en train vers l'Allemagne. Cette note, dans laquelle chaque mot est pesé, c'est un nouvel avertissement de la sphère scientifique au gouvernement. Reste donc à savoir si elle sera suivie d'actions concrètes et si le gouvernement durcira ses mesures dans les prochaines semaines pour casser la courbe de l'épidémie plus rapidement.
Merci Victor Delande. En tout cas, pour l'instant, pas de durcissement annoncé, même si à Paris, il n'y aura plus de livraison ou de vente à emporter après 22 heures.
Une semaine après la mise en œuvre de ce nouveau confinement, a-t-on vraiment changé nos habitudes? C'est ce que nous avons voulu vérifier. Alors d'abord dans la capitale, avec vous Jean-Jacques Herry. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes dans le quartier de la Bastille. On est d'accord, il est encore tôt, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est une journée comme une autre?
Eh bien presque en tout cas, hein. Vous l'entendez derrière moi, il y a déjà pas mal de circulation ici et c'est sans doute ce qui est le plus marquant si l'on compare avec le premier confinement. Il y a du bruit dans les rues de Paris quand c'était le silence au printemps. On croise aussi quelques joggeurs qui bravent le froid matinal, des cyclistes qui se rendent au travail en pédalant et puis il y a aussi des camions de livraison, bref, des scènes de la vie ordinaire. Et vous allez voir, m'a raconté le marchand de journaux, à 7h30, il y a tous les piétons qui vont arriver et s'engouffrer dans le métro. Alors moi, le confinement, je demande à voir, me disait-il. Personne n'est au télétravail. Alors personnellement, je ne serai pas aussi catégorique, parce que les bus que l'on voit passer, eh bien, ils sont vides, parce que les taxis restent stationnés sans réussir à trouver des clients sur la place, comme si la vie était là, bien là, c'est vrai, mais quand même bien bridée par les circonstances. Mais c'est vrai que si je regarde autour de moi, eh bien, le flux de circulation ne cesse d'augmenter.
Photo de Paris avec vous, Jean-Jacques Herry. Comment ça se passe dans une petite ville en région? Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour Hélène.
Vous êtes allé à Orchy, dans le Nord. C'est entre Lille et Valenciennes, 8000 habitants. Est-ce qu'en une semaine, vous avez le sentiment que la vie a radicalement changé?
Écoutez, non, pas vraiment. Hein, comme j'ai pu le constater cette semaine en journée, on est assez loin de la ville morte du mois de mars dernier. Alors bien sûr, les bars, les restaurants sont fermés, ainsi que les salons de coiffure ou les quelques boutiques de vêtements. Mais vous savez, avec les écoles, les services publics qui sont toujours ouverts, eh bien, il y a presque toujours autant de voitures qui sont garées sur la place de la mairie et sur les parkings de la petite zone d'activité en périphérie. Confinement très relatif donc pour Sophie, responsable d'une entreprise de transport.
Les gens continuent à circuler, mais par contre, je trouve que les gens respectent mieux entre eux le fait de porter le masque, d'avoir une distanciation. Mais c'est pas un vrai confinement. Et heureusement aussi d'ailleurs quelque part pour qu'on puisse quand même continuer à vivre et pas être non plus dans la morosité de tous les jours.
Alors et les contrôles, me direz-vous? Eh bien, si j'en crois Pierre, un jeune salarié, il y a comme un relâchement.
Comme la personne peut sortir avec l'autorisation d'une heure là, pour faire une balade, peut sortir une heure, la refaire sur son téléphone, donc au final, rester toute la journée dans les rues et il sera, même s'il se fait contrôler, il n'aura rien. Quoi. Personne ne le voit comme le premier confinement. Quoi. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus laxiste.
Alors vous l'entendez, un confinement qui n'en est pas vraiment un, ce qui renforce d'ailleurs la colère et l'incompréhension des petits commerçants qui sont toujours pénalisés dans cette séquence.
Merci Lionel Gougelot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Nord.
Vous comprenez bien qu'il y a les questions de santé publique, les questions économiques dont on a beaucoup parlé. Il y a le confinement et le consentement de ce confinement. Vous entendrez à la une du journal de 7h30 l'inquiétude des services territoriaux de renseignement. Il y a les foyers épidémiques et puis les foyers de contestation. Tiens, justement, la contestation qui gronde du côté de l'enseignement où on dénonce un protocole sanitaire insuffisant. Plusieurs syndicats appellent d'ailleurs une grève mardi.
Du coup, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a pris la parole hier pour s'adresser directement aux lycéens et pour les rassurer.
Chers lycéennes, chers lycéens, en raison des circonstances sanitaires très particulières, nous devons prendre des mesures d'adaptation. D'abord sur le plan sanitaire, en permettant à chaque lycée d'avoir son organisation propre, notamment pour limiter le brassage d'élèves. Et deuxièmement, pour l'aménagement des épreuves du baccalauréat, aussi bien le contrôle continu que les enseignements de spécialité, pour vous permettre de bien préparer et de bien réussir en toute sérénité. À bientôt.
Voilà, une vidéo publiée sur Twitter de Jean-Michel Blanquer qui, vous l'avez compris, annonce donc l'annulation pure et simple des épreuves d'évaluation commune du bac pour les premières et terminales au profit du contrôle continu. Et puis le foot, Lille a sauvé l'honneur des clubs français hier soir. Exploit à San Siro face au Milan AC en Ligue Europa, 3-0. En revanche, défaite de Nice en République tchèque, 3-2 face au Slavia Prague.
Merci Hélène Zelani, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Une semaine. Voilà donc une semaine que la France est partiellement reconfinée. On essaye de dresser des premiers bilans ce matin sur Europe 1. Je dis partiellement, puisque vous avez entendu cette info qu'Europe 1 révèle aujourd'hui, cette note confidentielle du directeur général de la Santé. Le confinement n'est pas assez strict. En cause, les écoles ouvertes, les visites en EHPAD ou la continuité des services publics. C'est à la une ce matin, avec l'alerte du ministre de la Santé. La deuxième vague est là, elle est violente. Et du point de vue économique, du côté des secteurs en souffrance, la culture, une semaine après ce confinement, j'invite Jean-Marc Dumontet, producteur de spectacles et propriétaire de plusieurs théâtres parisiens, le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h15 sur Europe 1.
Région Job vous présente l'éclairage éco. Plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, est avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Comment se portera l'économie en 2021 ? Au-delà du brouillard immédiat, on commence à voir se dessiner des tendances.
Oui, et je dois dire que mon optimisme en prend un petit coup, car les prévisionnistes de la Commission européenne ont revu leurs calculs et conclusions. Ben, il faudra attendre 2023, pour que l'économie retrouve le niveau de 2019 d'avant la crise du virus. C'est dire si ce micro-organisme aura eu des méga conséquences. L'économie aura perdu tout simplement 4 ans. Mais surtout, le scénario auquel on pouvait croire jusqu'ici ne tient plus. On espérait une reprise en V, c'est-à-dire un très fort rebond l'an prochain après une très forte récession cette année.
Et ce ne sera pas le cas ?
Eh bien non. Après une chute de 7,8% de l'activité économique en 2020 dans la zone euro, les experts de Bruxelles n'anticipent plus du tout un rebond aussi rapide. L'activité devrait se redresser de 4,2% seulement l'an prochain, puis de 3% en 2022. Voilà pourquoi il faudra attendre 2023 pour effacer les pertes économiques du Covid. Pourquoi cette reprise plus lente que prévu ? Eh bien à cause de cette deuxième vague. On avait espéré que cette crise serait un one shot et voilà qu'on en prend un deuxième coup sur la tête. Donc forcément, nous mettrons plus de temps à nous en remettre. Je tiens à apporter quand même un bémol. Les experts de Bruxelles prévoient un scénario un peu meilleur que la moyenne européenne pour nous, pour la France. Notre économie a plus souffert cette année mais du coup, elle devrait rebondir davantage l'an prochain avec une croissance de 5,8%. On se console comme on peut.
Ce scénario économique, Nicolas, il renforce l'urgence du plan de relance européen. De ce côté-là, malheureusement, ça n'avance pas.
Ça avance en tout cas très doucement. Hier, les organisations patronales des plus grands pays européens, le MEDEF français, le BDI allemand, la Confindustria italienne, ont lancé un appel pour que ce plan de relance soit vraiment lancé d'urgence, car on assiste depuis des semaines à un bras de fer entre le Conseil européen qui réunit les États membres et le Parlement qui exige que les pays ne respectant pas l'état de droit n'aient pas de financement européen. Les députés européens visent la Pologne et la Hongrie, et donc jusqu'à présent, il bloquait ce plan de relance tant que cette condition n'était pas gravée dans le marbre. Alors, un compromis a enfin été trouvé hier. Il va donc enfin permettre d'avancer pour mettre en œuvre ce plan de relance européen. La France, je le rappelle, en attend 40 milliards et nous en avons bien besoin.
Merci Nicolas Barré.
L'éclairage éco vous a été présenté par Région Job. Envie de travailler plus près de chez vous ? Trouvez votre futur employeur avec plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job.
7h18, le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
Le monde entier suit le dépouillement aux États-Unis et néglige le reste.
Oui, le monde est au balcon et s'en donne à cœur joie. Alors, il y a la joie mauvaise des satrapes. Le guide suprême iranien a tweeté « Le président américain dit que c'est l'élection la plus frauduleuse de l'histoire. Son adversaire l'accuse de vouloir truquer le scrutin. Voilà ce qu'est la démocratie aux États-Unis. » Évidemment, ça n'arriverait pas à Téhéran, où des manifestants qui dénonçaient le bourrage des urnes en 2009 ont été pendus. Et d'autres sont toujours en prison. Il y a les tartuffes, comme le porte-parole russe, qui rappelle que le vote des citoyens mérite d'être compté correctement. Il faudra le dire à Alexis Navalny quand l'opposant sera pleinement rétabli. Il y a la Chine qui refuse de commenter une affaire intérieure. Évidemment, elle aimerait que le monde en fasse autant à Hong Kong, mais la presse officielle ricane sur Washington, barricadée comme dans un pays pauvre. Des Burkinabés se demande si l'Amérique n'est pas devenue un de ces pays de merde que Donald Trump montrait du doigt. Le Zimbabwe envisagerait même de prendre des sanctions si l'élection américaine n'est pas free and fair, libre et honnête, comme dit le département d'État. Le pire dans ce cynisme, c'est que ce feuilleton américain occulte un autre scrutin qui engendre le chaos.
Vous parlez de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le week-end dernier.
Évidemment. Au moins à Abidjan, les sondages ne se sont pas trompés, il n'y en avait pas. À quoi bon, Alassane Ouattara a obtenu 94% des voix, et pour cause, il avait écarté tous ses rivaux, et ceux qui restaient ont boycotté le scrutin. 94%, c'est beaucoup. Alassane Ouattara est un économiste brouillé avec les chiffres. C'est son troisième mandat, mais il dit que c'est le premier puisqu'il a changé la constitution. Et il accuse de sédition l'opposition qui montait ces jours-ci un gouvernement de transition. Alors la police encercle la résidence de l'ancien Premier ministre, l'ancien président Henri Conan Bédier. Elle a arrêté ses proches. L'ancien président Gbagbo, lui, reste coincé en Europe, privé de passeport. Et l'ancien Premier ministre Soro, lui aussi en exil, a appelé hier à l'insurrection générale. 6 jours après le scrutin, les milices Ouattara aiguisent leurs machettes. L'armée attend son heure. La France a peur de son ombre. C'était pareil il y a 10 ans, pareil il y a 20 ans. Et la guerre civile est toujours prête à recommencer.
Vincent Hervouet, le regard international. Merci Vincent, il est 7h21. À suivre, le footballeur Mamadou Sakho, accusé de dopage en 2016, enfin blanchi par l'Agence mondiale antidopage. Mais 4 ans après, le mal est fait. L'édito sport de Virginie Fulpin.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h23 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La justice a donné raison à Mamadou Sakho contre l'Agence mondiale antidopage. L'ancien joueur du PSG, de Liverpool aussi et de l'équipe de France ne s'est jamais dopé comme l'AMA l'en avait accusé en 2016. Il va être indemnisé financièrement. Le joueur a même eu droit à des excuses. Mais pour vous, c'est bien joli, mais c'est trop tard, le mal est fait.
Il y a l'honneur et puis il y a la carrière. Alors l'honneur est sauf maintenant, mais la carrière, elle est brisée. Comment Mamadou Sakho pourrait rattraper 4 ans de sa vie de footballeur? C'est impossible. En avril 2016, l'Agence mondiale antidopage l'a accusé de se doper en prenant de l'hygénamine. Il a aussitôt été suspendu jusqu'à la fin de la saison, donc il ne pouvait plus jouer avec Liverpool, ni avec les Bleus. Dès ce moment-là, en fait, le mal était fait. À cette époque, Mamadou Sakho avait 26 ans, il était en pleine réussite avec son club, il était titulaire dans la défense de l'équipe de France. Sa suspension, ça a été le coup d'arrêt d'une carrière bien lancée. Il n'a pas pu disputer l'Euro en France et cette affaire l'a aussi amené à quitter Liverpool plus tôt que prévu pour rejoindre le club beaucoup plus modeste de Crystal Palace. Autant dire qu'il a disparu des radars. Résultat, les Bleus ont gagné la Coupe du Monde sans lui, Liverpool a remporté la Ligue des Champions sans lui, tout s'est joué sans lui en fait. Alors l'Agence mondiale antidopage a beau s'excuser et reconnaître le préjudice, ça ne va pas lui ramener les 4 années qui auraient dû être le sommet de sa carrière. Aujourd'hui, Mamadou Sakho à 30 ans et il ne sera sans doute jamais champion du monde à cause de cette erreur.
4 ans pour reconnaître une erreur, c'est quand même long.
Le problème, c'est qu'une carrière sportive passe beaucoup plus vite que la justice. L'UEFA n'a mis que quelques semaines pour disculper Mamadou Sakho, mais l'Agence mondiale antidopage n'a pas suivi, elle n'a pas reconnu son erreur et elle a laissé la justice faire son travail, comme on dit. Et c'est long, la justice, 4 ans, oui. Et le problème, c'est que le sentiment qui domine aujourd'hui, c'est au contraire celui de l'injustice. Mamadou Sakho n'a jamais rué dans les brancards, il a encaissé sans rien dire. Aujourd'hui, il doit savourer sa victoire, mais qu'est-ce qu'elle est amère cette victoire. L'indemnisation qu'il va recevoir n'aura jamais le goût d'une Coupe du Monde, jamais. La seule chose qu'on puisse espérer, c'est que le joueur soit tellement libéré par cette décision et par son honneur retrouvé qu'il revienne à son niveau d'il y a 4 ans, qu'il soit rappelé chez les Bleus, qu'il soulève le trophée de l'Euro en juin. On peut toujours rêver, il ne nous reste plus que ça finalement.
Oui, finalement, et à lui aussi d'ailleurs. Merci Virginie Fulpin, l'édito sport, c'est tous les matins à 7h20. 7h26, comme tous les jours, on retrouve Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quand on écoute le monde changer sur Europe 1, quand on est confronté aux infos, à tout ce que l'on peut voir, lire ou entendre, je crois qu'il est raisonnable parfois de parler de tohu-bohu.
Ah oui, tohu-bohu, voilà un mot qu'on utilise moins aujourd'hui. Ça décrit désordre, agitation, c'est ça ? D'où ça vient Stéphane ?
Eh bien ça vient de tohu-wabohu. Et là, vous me dites, bah, ça me fait une belle jambe, autre belle expression. La formule vient directement de la Bible, Matthieu. Avant l'existence de la terre, il est écrit que régnait la solitude et le chaos. Dans l'Ancien Testament, on utilise deux mots en langue hébraïque, tohu et wabohu. Le premier désigne le néant et le deuxième le vide. En France, c'est au XIIIe siècle que l'expression naît véritablement. On parle alors d'un torul-borul. Torul-borul pour désigner petit à petit tohu-bohu. Voltaire, quand il traduit des passages bibliques, est le premier à écrire « La terre était tohu-bohu ». Victor Hugo, dans Les Misérables, évoque un fiacre qui fait beaucoup de bruit. Il écrit « Brouhaha est à l'avant, tohu-bohu est à l'arrière ». Et enfin, citons ces quelques vers du bateau ivre de Rimbaud. Dans les clapotements furieux des marées, moi l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus et les péninsules des marées n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. Notons alors que tohu-bohu est au pluriel avec un S à tohu et un autre à bohu, pas de jaloux.
Avec un X. Stéphane, on vous retrouve à 16h tout à l'heure pour Historiquement Vôtre.
Oui, on prend la mer, Mathieu, on hisse la grand voile et on glisse sous le vent avec trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser en mer. Le pirate Barbe Noire, le richissime armateur grec Aristote Onassis et Francesco Schettino, le capitaine du Costa Concordia. Finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Mathieu Noël tout à l'heure de 16h à 18h sur Europe 1.
À tout à l'heure Stéphane. Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Alors un petit découpage que je vous ai proposé tout à l'heure, je l'ai un peu affiné, voici. Sur le Piémont pyrénéen, le Languedoc, le Roussillon, les Cévennes, des nuages. Alors là, les nuages sont très présents avec de la pluie, des pluies assez fortes car il s'agit des pluies qui viennent de la mer et des vents très violents, 80 km/h en bord de mer et 100 km/h pour le vent d'autant. Le Midi Pyrénées et l'Aquitaine sont également touchés ou marqués par des passages nuageux. Voilà pour le mauvais temps. Carcassonne, il a plu un petit peu, à Perpignan aussi. Mais maintenant, voyons les brouillards. Alors, ils sont plutôt présents sur le centre de la France, du côté de l'Alsace, de la Franche-Comté, du Rhône. Mais enfin, je ne les vois pas bien sur les cartes. Alors donc, je ne m'aventure pas plus loin. D'ailleurs, on ne peut pas trop circuler, donc ça tombe bien. Cet après-midi, temps de plus en plus couvert sur les côtes atlantiques et le Poitou-Charentes, qui sont les secteurs dans lesquels demain, eh bien, nous aurons beaucoup de pluie, puisque la pluie va revenir demain. Et là j'enchaîne tout de suite sur la journée de demain avec des pluies assez fortes sur l'ensemble du littoral atlantique et surtout sur les régions du sud-ouest où là nous aurons vraiment un temps désagréable pour cette journée de vendredi et dimanche de samedi. Et dimanche, ce sera l'est de la France qui à son tour sera touché par les pluies.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
Ils ont quelque part, on ne va pas déménager les armoires. Hein. Tout n'est pas numérisé. Donc là, même des métiers qui peuvent se faire en télétravail, on ne peut pas le faire pour des raisons purement pratiques.
La fonction publique, pas vraiment la bonne élève du télétravail, révélation Europe 1, alors que le gouvernement l'encourage avec force. Seul un tiers des fonctionnaires est en capacité de télétravailler. Nouvelles accusations de triche de Donald Trump sur le scrutin américain, alors que le dépouillement n'est toujours pas fini. Les démocrates fulminent, nous serons aux États-Unis. Et puis des milliers d'éleveurs français de volailles dans l'angoisse d'un retour de la grippe aviaire. 46 départements sont en alerte.
Juste après ce journal, nous allons continuer à faire le bilan de cette première semaine de confinement. La culture à l'arrêt total. On va en parler avec le producteur de spectacle, propriétaire de plusieurs théâtres, Jean-Marc Dumonté, le tête-à-tête Europe Matin. Avant l'édito politique de Nicolas Bétou et le grand désordre dans la majorité, juste avant Nicolas Canteloup, qui coach à sa manière l'invité politique de la matinale. Ce matin, le député de l'Essonne, président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mais tout d'abord, cette information qu'Europe 1 vous révèle ce matin. C'est colère qui bouillonne en France une semaine après le reconfinement. Bonjour Guillaume Bié.
Bonjour.
Guillaume, vous êtes procuré une note confidentielle des renseignements territoriaux. Elle répond à cette question. Comment les Français vivent-ils cette période de restriction ? Il y a de l'acceptation, mais aussi de la colère.
Oui, c'est une manière de prendre le pouls du pays dans tous les départements et cela montre plusieurs choses. D'abord que ces mesures de reconfinement sont globalement bien respectées par une majorité de la population. En revanche, les services de renseignement territoriaux pointent tous les mécontentements, ces colères de moins en moins sourdes qui débouchent sur des contestations, à commencer par les petits commerçants, dont certains manifestent comme avant-hier à Bayonne. Ils sont très remontés contre la grande distribution et ils craignent surtout de devoir rester fermés jusqu'à Noël, là où certains font 40% de leur chiffre d'affaires annuel. Certains lycées aussi sont en ébullition, entre les profs qui voudraient des demi-classes et des élèves qui refusent les mesures, avec même des appels sur les réseaux sociaux à défiler sans masque. Colère aussi des auto-écoles, des forains et même des surfeurs qui veulent le droit de retourner dans l'Atlantique. Bref, autant de mini-crises qui émaillent ce reconfinement.
Les révélations Europe 1 signées Guillaume Bié. Guillaume, vous parliez de la colère dans les lycées. Plusieurs syndicats appellent à une grève mardi prochain. Jean-Michel Blanquer pour calmer cette colère, autorise plus de cours à distance. Autre annonce du ministre hier soir, changement pour le bac 2021. Les épreuves communes aux premières et aux terminales sont annulées au profit du contrôle continu.
7h32, écoutez, c'était mardi sur Europe 1, la ministre du Travail, Elisabeth Borne.
Je vous confirme que c'est une obligation. Toutes les tâches qui peuvent être faites à distance doivent être faites en télétravail. Donc si toutes vos tâches peuvent être faites à distance, vous devez être 5 jours sur 5 en télétravail.
Autant que possible, le télétravail doit être systématisé, injonction du gouvernement. Sauf que le mauvais élève du télétravail, c'est la fonction publique.
Vous nous le révélez ce matin, Élise Dangean. Aujourd'hui, seul un fonctionnaire sur trois est en capacité de télétravailler.
Oui, et c'est beaucoup moins que pendant le premier confinement où la moitié des agents avaient accès au travail à distance, partiel ou complet. Alors le gouvernement tempère, on monte en puissance progressivement, dit-il, rappelant au passage que s'il y a moins de télétravail en ce deuxième confinement, c'est aussi parce que les guichets des services publics restent cette fois ouverts. Mais il y a des causes plus profondes. D'abord, l'absence de culture du travail à distance, c'est toujours à l'arrache, déplore une élue CFDT fonction publique. Autre frein à la généralisation du télétravail, l'équipement notamment informatique des agents. De gros efforts ont été fournis, y compris par les collectivités locales, mais ça reste insuffisant, comme l'explique Philippe Laurent, maire de Sceaux et président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Je vous donne un exemple, le service de l'urbanisme. C'est un service qui est assez administratif. En théorie, ça pourrait se faire uniquement en télétravail, mais en pratique, les dossiers, ils sont quelque part, on ne va pas déménager les armoires. Hein. Tout n'est pas numérisé. Donc là, même des métiers qui peuvent se faire pratiquement à totalité en télétravail, on ne peut pas le faire pour des raisons purement pratiques.
Et pour développer le télétravail, encore faut-il que les managers soient d'accord. Or, certains sont encore persuadés que leurs agents sont moins productifs à la maison. Pour tenter de régler ces blocages, le gouvernement organise donc chaque semaine des réunions avec les syndicats.
Information Europe 1 signée Élise Dangean. Sur le front de l'épidémie de coronavirus, toujours la dégradation en France. 58 000 nouveaux cas détectés hier, record en une journée.
Record quotidien aussi aux États-Unis, plus de 120 000 nouvelles contaminations.
L'Amérique où Donald Trump a réitéré cette nuit ses accusations de triche et de corruption alors que le dépouillement est toujours en cours. Bonjour Sonia Dridi.
Bonjour.
Donald Trump solennel au pupitre de la Maison-Blanche qui déclare « Si vous comptez les votes légaux, j'ai gagné. Si vous comptez les votes illégaux, ils nous volent l'élection. » Comment c'est perçu ça par l'opposition ?
Bien évidemment, les démocrates crient au scandale. Joe Biden, qui a lui aussi une armée d'avocats prêts à défendre le vote, a demandé à ses partisans de garder la foi. Et Donald Trump commence à s'aliéner des soutiens dans son propre camp. Le New York Post, un tabloïd qui a appelé à voter pour lui, a titré il y a quelques heures « Un Trump abattu lance des accusations injustifiées depuis la Maison Blanche ». Pour Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey et conseiller informel du président, il n'y a aucune preuve de fraude. Il a dénoncé sur la chaîne ABC des propos incendiaires. Même son de cloche chez le gouverneur républicain du Maryland qui assure que la déclaration de Donald Trump sape le processus démocratique. Trump, extrêmement frustré, semble un peu perdu dans le système électoral américain compliqué. Un conseiller a même dû lui expliquer que si le décompte des voix s'arrêtait maintenant comme il le souhaite, ce serait alors Joe Biden le vainqueur.
Sonia Dridi en ligne des États-Unis.
On vous le disait, hein, décompte des voix toujours en cours dans 4 états clés et c'est parfois très serré. Écoutez, 11 000 voix d'écart en ce moment dans le Nevada, 11 000 sur plus d'un million de bulletins dépouillés. En Géorgie, 1 700 voix d'écart seulement sur près de 5 millions de bulletins.
Autre état clé, la Pennsylvanie, 26 000 voix d'avance en ce moment pour Donald Trump. Une terre qui nous montre bien les leviers de la réussite de Joe Biden. Toujours en tête, hein, rappelons-le, au nombre de grands électeurs, soutien massif des grandes villes, mais aussi la mobilisation des Afro-Américains.
Vous l'avez constaté, Théo Manval, à Pittsburgh, à It's Liberty en fait, plus précisément, un quartier très cosmopolite.
Oui, où Valérie a retrouvé le sourire en attendant les résultats définitifs. Parmi les votes par courrier en train de finir d'être dépouillés, probablement le sien pour un Joe Biden qu'elle soutient depuis le début.
D'abord parce qu'il a reconnu l'existence d'un racisme systémique dans notre pays. Il essaye de nous rassembler, d'étendre le système de santé, d'augmenter le revenu des familles les plus pauvres.
De quoi recevoir un soutien massif des Afro-Américains ici, qui avaient tant manqué à Hillary Clinton. Elle nous avait pris pour acquis, estime Marvin, pas Joe Biden.
Regardez qui l'a pris comme colistière. Une femme de couleur, c'est la première. On a eu un président noir, maintenant peut-être une vice-présidente noire. Le monde change.
Et surtout, conclut Alonso, Joe Biden a su montrer de la compassion en allant rencontrer les familles de George Floyd, de Jacob Blake. Il a su capter une partie de la colère du mouvement Black Lives Matter.
Il y a eu plus de noirs tués par la police sous Donald Trump que sous aucun autre président. À cause de sa rhétorique raciste, il leur a donné le feu vert pour faire tout ce qu'ils voulaient.
Sur sa télé, dans sa boutique, il se tient loin des chaînes d'infos, mais espère que le dénouement arrivera le plus vite possible.
Théo Manval, envoyé spécial d'Europe 1 en Pennsylvanie.
Et on a les yeux, vous le savez tous, hein, les yeux rivés sur ces cartes rouges et bleues des États-Unis d'Amérique. Pour vous donner une anecdote, j'ai entendu cette nuit un présentateur de CNN nous dire « Et j'apprends à l'instant que Joe Biden a 96 voix qui viennent d'arriver en Géorgie. » Vous vous rendez compte, on en est à compter les voix à l'unité. C'est spectaculaire ce qui se passe et on continue à suivre minute après minute l'évolution de ce scrutin américain toute la matinée sur Europe 1.
En France, l'angoisse de milliers d'éleveurs de volailles, 46 départements, Landes, Gers notamment, sont placés en risque élevé de grippe aviaire. Ces éleveurs doivent confiner leurs bêtes pour éviter qu'elles ne soient contaminées par des oiseaux migrateurs.
Des éleveurs très impactés par les conséquences de la maladie en 2015 et 2016, des abattages massifs qui avaient coûté des dizaines de millions d'euros. François Coulon a rencontré dans les Deux-Sèvres un producteur de foie gras. Il angoisse à quelques semaines de Noël.
Jean-Robert Maury va lancer aujourd'hui l'opération Tous aux abris dans son élevage d'Auger. Les 12 000 canards en liberté sur 60 hectares de prairies vont être parqués en urgence dans des bâtiments clos. Il y a 4 ans, un oiseau migrateur avait contaminé l'exploitation.
Si on revit ce qu'on a vécu, évidemment que ça fait peur. Le choc de voir tous ces gens en tenue de cosmonaute, passant par groupe et allant de lot de canard en lot de canard pour les tuer, c'est catastrophique. Tous les canards de l'exploitation étaient abattus. Il y en avait 29 000. Le lendemain, on se retrouve tout seul. C'est ça qui est le plus compliqué.
Jean-Robert, producteur de foie gras, est déjà économiquement victime du Covid. Il redoute le retour de la grippe aviaire éventuellement transmissible à l'homme.
La grippe légèrement évoluée, comme elle est très prête de la grippe humaine, elle pourrait passer à la grippe humaine, ce qui apporterait une maladie nouvelle, un peu comme le Covid aujourd'hui, et affecter fortement l'humain. Et comme ils n'ont pas de réponse à apporter sur le canard en lui mettant un vaccin, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est d'abattre les lots de canards porteurs de ce virus.
L'épidémie de grippe aviaire de 2016 avait fait chuter de 30% la production de foie gras en France. Auger, François Coulon, Europe 1.
Et puis Mathieu, mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir à San Siro, le stade de l'AC Milan?
Une faille spatio-temporelle.
Un club français de foot a gagné un match. Et de quelle manière? Lille a gagné 3-0 à l'AC Milan.
Vous souriez, mais Lille, ils sont bien en Ligue Europa, je crois.
L'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic, s'il vous plaît. Lille, ce matin, premier du groupe de qualification.
Premier.
Ah bah exactement.
Voilà. Et bah vous faites bien de le souligner. Jérôme Lacroix, merci beaucoup. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France, invité politique d'Europe Matin à 8h15. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. La situation sanitaire, le respect du confinement, le consentement aussi. Les Français face aux mesures restrictives, vous l'avez entendu dans le journal à l'instant. C'est une information Europe 1 ce matin. Si le confinement est plutôt respecté, en revanche, sur le terrain, les services territoriaux de renseignement remontent des colères, des mécontentements à surveiller. Tout de suite, si on a beaucoup parlé des commerces, des restaurants, voire même du tourisme, place à la culture ce matin. Après une semaine de confinement, mais plus longtemps hein, si on compte les couvre-feux. Secteur mis à l'arrêt. L'appel ce matin d'un producteur et propriétaire de plusieurs théâtres, Jean-Marc Dumontet, invité du tête-à-tête Europe Matin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9.
7h43 sur Europe 1. Une semaine de confinement, 3 semaines de couvre-feu. Si on a beaucoup parlé des commerces, un secteur de l'économie française est aux abois, celui de la culture. Le spectacle vivant en particulier. Mon invité est producteur de spectacle et propriétaire de théâtre, Jean-Marc Dumontet.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Jean-Marc Dumontet.
Bonjour Mathieu.
Alors je vais juste préciser une petite chose. Vous êtes un ami de la maison, il faut le souligner, puisque parmi vos activités, vous êtes le producteur d'un certain Nicolas Canteloup.
Je suis l'heureux producteur depuis 22 ans de Nicolas Canteloup.
Qu'on va retrouver dans une dizaine de minutes sur Europe 1. Alors une semaine après le reconfinement, 3 semaines après le couvre-feu, Un premier bilan peut-être ce matin. Vous avez 6 théâtres à Paris, 1 en Bretagne. Combien vous coûte cette crise du Covid, Jean-Marc Dumonté?
Oh, cette nouvelle crise du Covid, c'est autour, pour mes activités propres, c'est autour de 3 millions d'euros de pertes que ça va générer. Mais je ne crois pas, vous savez, que ce soit important aujourd'hui d'avancer des chiffres et de se plaindre tout le temps. On sait que c'est catastrophique, ça vient à un moment donné, on a déjà été extrêmement fragilisés. On a pu démarrer notre rentrée qu'au mois de septembre, parce qu'il y a des temps de préparation artistique.
C'est ce que j'allais vous demander. Exactement. Sur la saison, parce qu'on retient le premier confinement le printemps. Une saison de théâtre, ça se déroule...
Une saison de théâtre, c'est globalement de septembre à avril, le moment fort. La dernière fois, le confinement est arrivé le 15 mars. Donc, on était en fin de saison. Et pour ceux pour qui ça se passait bien, on avait des réserves. Pour les plus fragiles, ça a été dramatique déjà. Et puis là, on a démarré nos saisons. 22 septembre, au Théâtre Antoine, par le bout du nez avec Berléand de Maison. 24 septembre, plaidoirie avec Richard Berry. On venait de démarrer la saison et ça s'arrête. Donc, c'est à nouveau un coup dur. Ce seront des pertes importantes. Ça arrive à un moment où, effectivement, où ça commençait à frémir. Les spectateurs étaient de retour dans les salles. En termes sanitaires, on assurait vraiment. Donc, tout était au beau fixe. On pouvait jouer. Et notre raison d'être, c'est de jouer. C'est de fouler les scènes pour les acteurs. C'est d'entendre le public vibrer.
Là, c'est même avec le couvre-feu, vous aviez à la limite essayé d'ouvrir plus tôt, de proposer des matinées.
On a joué à 19h. On a évidemment et malheureusement.
Et à l'époque, vous disiez le pire, ce serait le confinement.
Bien évidemment, parce que s'arrêter de jouer, c'est terrible pour nous. Parce que dans ce deuxième confinement, il y a la volonté que l'activité économique demeure parce qu'il y a une crise sanitaire très forte, il y a une crise économique et il faut vraiment qu'on s'en sorte et on ne peut pas s'en sortir l'un sans l'autre, c'est-à-dire l'économie sans le sanitaire ou le sanitaire sans l'économie. Donc on a besoin que les deux aillent mieux pour s'en sortir. Et là, c'est vrai que pour nous, le signal y est très fort, il faut tout arrêter.
Et on parle toujours des commerces, mais Noël, c'est une période importante aussi pour le spectacle vivant. La période des fêtes, d'abord,
C'est la période la plus forte. Nos trois mois forts, c'est novembre, décembre, janvier, et pourquoi pas février aussi. Mais vous savez, on l'a fait le constat, c'est très dur. Maintenant, il faut se projeter dans l'avenir. Il n'y a que ça qui compte, parce qu'on s'en sortira si, quand on pourra ouvrir à nouveau, on a les beaux spectacles et que les spectateurs reviennent comme ils l'ont fait au mois de septembre. Donc ça doit être ça notre obsession aujourd'hui. Mon obsession, c'est de préparer demain. C'est très dur aujourd'hui, c'est catastrophique économiquement évidemment, nous n'avons aucune recette, mais il faut qu'on se projette sur l'avenir parce que si on réussit l'avenir, on s'en sortira. Moi j'ai une certitude, c'est qu'un jour cette histoire sera terminée. La Covid sera derrière nous.
Sauf qu'il faut tenir en attendant, et quand vous dites qu'il faut préparer la suite, j'ai même lu une interview où vous disiez qu'il faut faire preuve d'un esprit de résilience. Mais concrètement, préparer la suite, être résilient, ça veut dire quoi, Jean-Marc Dumonté?
Ça veut dire d'une part entretenir le lien avec nos spectateurs, parce que nos spectateurs, il faut leur dire qu'un jour on va continuer à jouer et qu'on sera là ou qu'on sera au rendez-vous. La deuxième chose, c'est préparer des spectacles qui soient les plus beaux possibles, qui soient les plus urgents possibles, pour que le public ait envie de revenir chez nous. Et c'est entretenir le lien avec nos équipes et avec les artistes, parce que ce moment est éprouvant et il faut qu'on réussisse l'après. Donc il faut à la fois qu'on soit très combatif, qu'on se ménage et qu'on se prépare psychologiquement à réussir demain, parce qu'il faut qu'on réussisse demain.
Alors, je voudrais vous faire écouter deux extraits musicaux, Jean-Marc Dumonté. D'abord celui-ci. Bilal Hassani, qui a publié Contre Soirée, son deuxième album, cette nuit, il sera l'invité de Philippe Vandel dans Culture Média. Un album imaginé comme un opéra rock, dit-il. Et puis tiens, un autre. Ça, c'est le rappeur Booba, qui est de retour, 5G, un nouveau morceau publié cette nuit aussi, un album annoncé Ultra, nouvel album solo. Ces deux artistes, deux styles différents, ont publié leur morceau cette nuit. Les deux ont affolé les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier. Jean-Marc Dumonté, est-ce que c'est ça la culture du monde d'après? Des plateformes de Spotify et Netflix, des réseaux sociaux, une consommation de la culture sur son canapé?
Pas du tout. Il y a plusieurs types de culture, plusieurs types de consommation de culture. J'aime pas trop ce terme de consommation de culture, mais il y a plusieurs types d'habitudes de culture. Il y a la culture des réseaux sociaux, il y a les plateformes et il y a le spectacle vivant. Le spectacle vivant, c'est des moments uniques, c'est des moments d'osmose, c'est des moments de partage entre un artiste et des spectateurs. C'est des moments qu'on ne retrouve retrouve jamais. Donc le spectacle vivant, il a totalement sa force, sa puissance, sa raison d'être, il existe depuis toujours. Je l'ai vu au mois de septembre quand on a ouvert nos salles, le public était vraiment au rendez-vous, avec une ferveur, avec une émotion extraordinaire.
Vous n'avez pas peur qu'ils prennent de nouvelles habitudes, si j'ose
non,
dire, quand on peut voir le spectacle sur Internet?
On entend Bilal Hassani là à l'instant, mais ce qu'il fait n'est pas un objet de scène, c'est juste un clip, ça se consomme en 3 minutes. Nous, c'est des moments plus longs, des moments de réflexion, des moments d'aération, des moments différents. Donc il y a la place pour tout le monde. Il s'agit pas, vous savez, on a beaucoup parlé au début du confinement du mois de mars, du monde d'après. C'était les grandes discussions pendant les premières semaines. Et puis ça a fait un peu pchit, on ne parle plus du monde d'après. On sait qu'on veut retrouver déjà le monde d'avant et qu'il fonctionne comme il fonctionnait, parce que ça nous apportait malgré tout beaucoup de bonheur de pouvoir vivre et de jouir de la vie, ce qui est moins le cas aujourd'hui.
Jean-Michel Ribes, qui est directeur du théâtre du Rond-Point, disait entre sauver des vies et sauver le théâtre, bien sûr il faut sauver des vies, mais ce serait encore mieux de sauver des vies et le théâtre aussi. Le théâtre va crever, il faut le savoir. Je pense aussi à Laurent Garnier, le DJ, qui disait à Roselyne Bachelot « Je suis un artiste du spectacle mort ». Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, Jean-Marc Dumonté, vous êtes là très tôt ce matin sur Europe 1 alors que vos salles sont fermées. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin?
Ce qui me fait lever, c'est l'espoir de demain, parce qu'il y aura demain. Ce qui me fait rêver, c'est que je ne crois pas en ces propos catastrophistes sur comme quoi le théâtre va crever, parce que ce n'est pas vrai. Le théâtre ne va pas crever, il va continuer à vivre. Ce qui me fait rêver et ce qui me fait me lever le matin, c'est que je pense qu'il y a une formidable résilience chez l'homme, qu'il y a une ingéniosité extraordinaire. Et ce matin, en me levant, d'abord, j'ai regardé les résultats de la Géorgie et de la Pennsylvanie, parce que c'est ça qui m'obsède en ce moment, parce que j'espère que ce pays va retrouver un dirigeant normal. Ce sera un signe positif de bienveillance pour le monde. Et on a besoin de nouvelles positives aujourd'hui. Et ce qui m'a interrogé ce matin, c'est d'apprendre la mort de Pierre Simonet, qui est un des 3 derniers compagnons de la Libération. C'est des gens qui ont eu des profils extraordinaires, des parcours exceptionnels, qui ont pris tous les risques à 18 ans, quitter Bordeaux, aller à Liverpool, changer de vie, prendre des risques insensés. Et aujourd'hui, cette crise, elle nous oblige effectivement de façon provisoire pendant 8 mois à changer de vie. À changer de vie, à nous arrêter un peu, mais demain ça va reprendre. Et sachons changer de vie, comme nous changeons de vie, comme changer de vie a été le motif et le leitmotiv de Pierre Simonet, compagnon de la Libération. Il a changé de vie, il a réussi de grandes choses pour notre pays. Et bien nous, changeons de vie pendant 8 mois et derrière réussissons de grandes choses. C'est l'impératif de 67 millions de Français. Faites l'effort aujourd'hui, faites vraiment l'effort aujourd'hui et demain nous réussirons.
Jean-Marc Dumonté, vous avez l'oreille du président, une certaine proximité, c'est de notoriété publique aussi. Vous l'avez eu au téléphone récemment ou pas ?
Je peux échanger avec le président. Personne n'a l'oreille d'un président. Personne n'a l'oreille d'un président. Le président sait que la crise sera très dure, qu'elle est très dure, et qu'il faut qu'on prenne des mesures drastiques pour éradiquer ce virus. Et moi, je ne suis pas du tout. J'ai pas du tout aimé les polémiques qu'il y avait de beaucoup d'élus locaux qui faisaient beaucoup de démagogie sur l'ouverture des petits commerces. Je crois qu'il faut tous qu'on fasse l'effort. C'est impératif de faire l'effort. Il faut qu'on se sorte de cette histoire. Et il faut qu'on retrouve l'espoir. Mais là, ça exige un sacrifice total par rapport aux conditions sanitaires.
Jean-Marc Dumonté, producteur de spectacles, propriétaire de plusieurs théâtres à Paris. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Invité du Tête-à-Tête Europe Matin. Vous allez rester dans 3-4 minutes. On écoute Nicolas Cantu.
Exactement.
7h52.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 7h55.
La Caisse d'épargne vous présente l'édito politique de Nicolas Bétou. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
Les députés vont devoir revoter sur l'état d'urgence sanitaire. Objectif, faire oublier un couac spectaculaire.
Oui, les députés de La République En Marche ont commis une sacrée bourde en début de semaine. Ils ont laissé l'opposition imposer, contre l'avis du gouvernement, que l'état d'urgence sanitaire se termine à la mi-décembre et non pas en février prochain. Ce couac est imputable à Christophe Castaner, le nouveau patron du groupe parlementaire qui devait pourtant ramener de l'ordre parmi les soutiens d'Emmanuel Macron. Que dans un moment aussi tendu de la lutte contre le Covid, le gouvernement n'arrive même pas à convaincre sa majorité, ne donne pas une très bonne image de la gestion de la crise. Et c'est un caillou de plus dans la chaussure de Jean Castex.
Un de plus, dites-vous ?
Mais oui, les problèmes s'accumulent et tous reviennent à une question d'autorité. Autorité de sa parole. Par exemple, lorsqu'il s'exprime sur TF1 dimanche soir pour expliquer sa position sur le petit commerce et le confinement, les mauvais esprits ne retiennent qu'un geste maladroit, involontaire certes, mais qui peut paraître déplacé. Et les esprits affûtés, eux, retiennent que le Premier ministre a pris une position qui n'était pas en ligne avec celle du chef de l'État sur un sujet pourtant bouillant en ce moment, le rapport au colonialisme. Mais pour le reste de ses propos, pas ou peu de traces. Ça ne marque pas.
Il faut dire que Bruno Le Maire avait dévoilé un peu plus tôt dans la journée la décision de fermer les rayons de grandes surfaces vendant des produits dits non essentiels.
C'est vrai, mais là ça pose un problème d'autorité d'une autre nature, celle qu'un Premier ministre devrait imposer à son équipe. Bon, c'est un fait, Jean Castex n'a pas eu le cuir tanné sur les bancs des parlementaires, il n'a jamais été ministre ni eu de fonction d'envergure dans un parti politique. Les personnalités qu'il a à gérer dans son gouvernement ont toutes leur savoir-faire, les Le Maire, les Blanquer, Véran, Darmanin, ils peuvent avoir leur propre agenda et leur partition à jouer. Difficile pour quelqu'un qui n'a jamais fait de musique à ce niveau-là d'apparaître comme un chef d'orchestre et difficile aussi d'empêcher les couacs.
Et là, vous faites allusion à la sortie de Gabriel Attal sur le couvre-feu que Matignon a tout de suite démenti.
Absolument, un problème d'autorité dans les arbitrages cette fois, mais je pense aussi au dérapage d'Olivier Véran qui pique une énorme colère au Parlement et qui intime aux députés qui ne sont pas d'accord de sortir de l'hémicycle. Bon, évidemment, ce n'est pas le premier membre d'un gouvernement à craquer comme ça sous la pression, mais tout ça donne une impression de grande fragilité, là où pendant ces crises terribles que nous traversons, on aurait besoin du contraire. Et tout ça laisse le chef de l'État sans véritable protection, sans première ligne, ni parlementaire, ni gouvernemental pour défendre sa politique. En se séparant d'Édouard Philippe, le président voulait, avant l'été, ramener le pouvoir à lui. Bon, ça, c'est fait, comme on dit, mais il se retrouve cette fois trop seul.
Nicolas Bétou, votre édito, tous les matins, juste avant le journal de 8h. Merci Nicolas.
C'était l'édito politique de Nicolas Bétou avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Et tous les jours, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France. Et c'est Nicolas Sarkozy qui voulait lui donner un petit conseil.
Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Béillard, Monsieur Bétou, Monsieur Cabrol. Bonjour à Jean-Marc Dumonté. Franchement, Monsieur Béillard, il était bon, Jean-Marc Dumonté. Si je peux me permettre, puisque je suis là pour coacher, juste un petit détail. Faut pas qu'il prenne un masque trop grand, hein. Parce que ça glisse tout le temps. Son masque, il est un peu comme ses salles en ce moment, un petit peu trop grand par rapport au nombre de spectateurs, si je peux me permettre. Écoutez, par rapport à Nicolas Dupont-Aignan, c'est pas à lui que je donne un conseil, c'est à vous, parce que je vous rappelle quand même que je suis membre du conseil de surveillance du groupe Lagardère. Qu'est-ce que vous foutez à inviter Nicolas Dupont-Aignan alors que l'actualité ce matin, c'est la présidence américaine? C'est quoi cet invité? Il n'y a aucun lien, franchement.
Biden était pris.
Oui, si, à la limite, on peut trouver un lien. C'est que c'est vrai que quand il y a une élection où il y a Dupont-Aignan, il n'y a pas trop besoin de recompter les voix pour mesurer l'écart. Allez, je vous laisse, bonne matinée.
C'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille tous les matins l'invité politique de la matinale. Vous le retrouvez à 8h45 pour la revue de presse. Laurent Cabrol est avec nous, 7h59, c'est l'heure de la météo.
Oui, bien nous avons...
Reprenez votre sérieux, Laurent.
Oui. Ben, nous allons vivre une journée qui, somme toute, n'est pas trop désagréable, puisque hormis le Piémont pyrénéen, le Languedoc, le Roussillon, les Cévennes, le Midi-Pyrénées et l'Aquitaine, nous aurons à la fois des nuages et du vent partout ailleurs. Ce sera un ciel qui, globalement, rien à voir avec le ciel d'hier et d'avant-hier, puisque là, vraiment, il y aura des passages nuageux, mais globalement, ce sera un temps, disons, assez calme, assez ensoleillé, il y a de l'assez partout, et assez venteux. Mais les températures seront assez douces, entre 12 et 19 degrés, voilà.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nouveau l'élection.
La toute dernière sortie en date d'un président sortant qui doute, s'impatiente, multiplie les accusations de fraude sans preuve, au point que plusieurs télévisions américaines ont interrompu sa déclaration cette nuit depuis la Maison-Blanche. Nous serons à nouveau à New York en direct, ainsi qu'au téléphone avec une porte-parole des démocrates en France. Et bien sûr, un point sur le décompte des voix, plus serré que jamais. À la une aussi, ce matin, une semaine après le reconfinement, un ministre de la Santé extrêmement inquiet.
En toute transparence, la situation, elle est tendue, c'est rien de le dire. Nous devons nous ressaisir
et nous devons continuer à nous battre.
Olivier Véran appelle à respecter au mieux le deuxième confinement. Nous verrons que les contrôles de déplacement sont assez peu nombreux. Et puis, la crise au cœur des lycées. Jean-Michel Blanquer, contraint de lâcher du lest et de corriger déjà le format du bac 2021.
Juste après ce journal et après une semaine de confinement, la question du consentement de la population reste posée. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il n'avait pas pris la parole depuis plus de 24 heures et avait même mis en sourdine sa passion frénétique des tweets. Voilà qu'à 1h du matin, heure de Paris, 19h sur la côte est des États-Unis, l'un des pics d'audience de la journée, le président candidat Donald Trump est entré dans la salle de presse de la Maison-Blanche pour une déclaration retransmise aussitôt sur toutes les télés du pays. Il renouvelle ses accusations de fraude électorale.
There are tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever.
Well, we're interrupting this because what the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.
Extrait du direct à la télévision américaine. Ça, c'était la chaîne NBC, mais d'autres chaînes ont fait de même. Bonjour Xavier Yvon.
Hello, bonjour à tous.
En direct de New York ce matin. Moment assez extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé, Xavier ?
Il s'est passé qu'en ce moment où le pays et le monde attend en haleine la fin du dépouillement dans les derniers États, eh bien le président des États-Unis a pris la parole depuis la Maison-Blanche à l'heure des journaux télévisés pour dire qu'il a gagné, qu'on est en train de lui voler l'élection et que eh bien, la plupart des télévisions américaines, notamment les trois plus grandes chaînes de télé, hein, NBC, CBS et ABC, eh bien, ont décidé d'arrêter de diffuser Donald Trump au bout de quelques minutes. Trop de mensonges, trop de contre-vérités ont expliqué les présentateurs de ces télés, parce que ces votes illégaux dont parle Donald Trump, ce sont en fait les bulletins par correspondance, ceux-là même que l'on compte en ce moment et qui lui font perdre son avance sur Joe Biden. On le savait, c'était prévu que ces votes seraient à majorité démocrate, mais le président tente de les disqualifier sans apporter aucune preuve de ce qu'il avance. Même Fox News, après son allocution, a bien précisé que les accusations de Donald Trump n'avaient aucun fondement. Un Donald Trump qui avait l'air sombre et fatigué et qui semble isolé dans son combat. Il n'est pas tellement soutenu dans son camp. Pour l'instant, le silence des principaux responsables républicains est assez éloquent et il énerve d'ailleurs ses deux fils, les deux fils du président Eric et Donald Jr., qui appellent les républicains sur Twitter à se battre pour leur père. Comment les supporters du président, eux, vont-ils réagir ? C'est évidemment la question qui inquiète. On vient d'apprendre qu'un homme armé a été arrêté par la police de Philadelphie et selon les premières informations, il avait l'intention de s'attaquer au centre de dépouillement de la plus grande ville de Pennsylvanie, là où justement sont comptés en ce moment les derniers bulletins.
Xavier Yvon à New York pour Europe 1. Vous restez connecté avec nous. Bonjour Amy Porter.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du Parti démocrate américain en France, Democrats Abroad France. Il y a le décompte, l'attente, mais il y a aussi le match des mots. Joe Biden affiche une forme de sérénité. Personne ne nous prendra notre démocratie, dit-il sur Twitter. Dans cette grande tension, vous allez juste faire le dos rond et attendre sagement que le dépouillement avance ?
Mais évidemment, parce que les chiffres sont de notre côté. Quand je regarde ce qui s'est passé cette nuit, dans les États où Trump avait une avance, la marge se réduit de minute en minute. Il n'a plus que 1800 voix d'avance en Géorgie. Il reste des dizaines de milliers de bulletins à dépouiller. Les chiffres sont de notre côté.
Et puisque la bataille a lieu aussi sur le terrain judiciaire, est-ce que vous pouvez, vous aussi, démocrate, lancer des procédures ou bien contrer celles qui sont lancées par l'équipe de Donald Trump ?
Alors, je vous rassure que l'équipe Biden a une armée d'avocats qui se tient prêt à contrer tout ce qui se passe. Je dirais juste que les trois actions en justice déjà lancées par le côté Trump ont déjà été déboutées parce que sans fondement. Donc, il ne fait pas ça, enfin, Trump ne fait pas ça pour gagner, il fait ça pour distraire, pour semer la confusion et le chaos comme à son habitude.
Et en coulisses ou publiquement, est-ce que vous appelez vos collègues du parti d'en face, les Républicains, à ne pas suivre le président Trump dans ses accusations ?
Ah mais moi, je ne peux rien leur dire. De toute façon, ils sont comme des moutons, ils vont le suivre jusqu'au bout. Tout ce que Trump a dit depuis les dernières 24 heures est un tissu de mensonges et tout le monde le sait. Il ne peut pas s'autoproclamer le gagnant. Moi, je peux m'autoproclamer championne olympique, ça ne serait pas vrai pour autant. Donc, on attend patiemment. Je pense qu'on aura les résultats de la Pennsylvanie en fin de journée, donc fin de journée vendredi, peut-être cette nuit, heure de Paris. Et une fois que la Pennsylvanie tombe dans l'escarcelle de Biden, c'est terminé.
Merci, Amy Porter, porte-parole de Democrats Abroad France.
Merci à vous.
invité du journal de 8h d'Europe 1 en direct.
Vous êtes toujours avec nous, Xavier Yvon, en direct de New York, où vous suivez vous surveillez même le décompte hein, dans les quatre états clés qui peuvent faire basculer le scrutin, avec des écarts qui se sont encore resserrés ces dernières heures.
Oui, alors on va faire un point qui ressemble un peu à un but par but. Hein. En Géorgie, où c'est le plus serré, Joe Biden n'a plus que 1267 voix de retard. Donc, vous voyez, par rapport au journal de 7h où je vous ai fait un dernier pointage, ça veut dire qu'il a gagné 200 voix en une heure. Il reste moins de 1% des bulletins à dépouiller. On continue aussi à compter dans le Nevada, dans l'Arizona, encore indécis pour certains médias. Et bien sûr, en Pennsylvanie, votre invité en parlait. Là aussi, l'écart se réduit de manière spectaculaire. Il a été divisé par deux en deux heures. On en est à 18 000 voix d'écart. Il reste 175 000 bulletins à dépouiller. Joe Biden va passer devant, si l'on en croit les spécialistes des cartes électorales. La Pennsylvanie, c'est la dernière pièce du puzzle. Si Trump la perd avec ses 20 grands électeurs, c'est terminé.
Xavier Yvon, notre tour de contrôle à New York, vous nous disiez 1200 voix d'écart en Géorgie, dans un État qui a dépouillé plus de 5 millions de votes à présent.
Il est 8h07. Retour en France, une semaine après ce nouveau confinement. Nous dressons des bilans ce matin sur Europe 1. Le ministre de l'Intérieur l'assure, ce reconfinement se fait sous la surveillance des forces de l'ordre. Il donne le chiffre de 35 000 verbalisations depuis une semaine.
Deuxième confinement, en apparence plus souple que le premier, avant tout car les enfants vont à l'école et on peut bien sûr les y accompagner. Nous avons voulu tester la réalité de ces contrôles d'attestation.
Nous avons demandé à Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest, de faire le test. 300 km dans la journée, Bordeaux, Périgueux, en empruntant différents axes.
Nous voici donc partis, on roule tranquillement dans l'agglomération bordelaise. Nous sommes en début d'après-midi, on passe plusieurs ronds-points et pour l'instant, on n'a pas observé le moindre contrôle. Et on va se diriger vers la rocade, on va franchir la Garonne. On va quitter la Nationale 89 pour rejoindre cette fois-ci l'autoroute. Et on s'approche à l'instant même du péage en direction de la Dordogne. Pas de contrôle au péage. Petit arrêt sur l'aire de repos des Palombières. Et on va en profiter pour demander à ces automobilistes s'ils ont été souvent contrôlés.
Pas du tout.
Et là, ça fait combien d'heures que vous roulez?
Deux heures et demie à peu près. Hein.
Ça a l'air beaucoup moins sévère que la première fois.
Allez, on fait un crochet par les hauteurs de Périgueux. On est en train de traverser un village. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez été contrôlé, vous, depuis le début du confinement?
Non, pas encore. Le début de mars, là.
Au printemps.
Oui, là, j'étais contrôlé 3 fois, 4 fois.
Rentrée de Périgueux, nous avons emprunté les petites routes pour traverser le vignoble. Les arbres se parent des couleurs automnales et il n'y a pas de bleu à l'horizon. Aucun contrôle des attestations.
On entend donc cet instantané, hein, cette réalité d'un trajet effectué par Stéphane Place pour Europe 1. Voici la parole, l'explication aussi en quelque sorte, venue d'un policier, Christophe Emery, délégué local à Lyon du syndicat SGP Police et lui-même est CRS autoroutier.
Il est vrai qu'on n'applique pas, on ne fait pas des contrôles spécifiques Covid, puisque de toute manière, voilà, les 4/5 des gens qui sont à l'extérieur sont des gens qui sont en droit de l'être. On le sait tous, hein, l'attestation, on peut se déplacer pour aller chercher les enfants à l'école et les ramener 4 fois par jour. On peut aller faire nos courses, on peut continuer à faire quasiment tous nos déplacements. Donc, mis à part qu'on ne peut pas changer de région, c'est à peu près la seule limite. De par cette configuration, on ne peut pas contrôler tout le monde. Conjugué au fait aussi qu'on est quand même en vigipirate urgence attentat, on ne peut pas être partout et s'occuper de tout en même temps.
Christophe Emery, délégué local à Lyon du syndicat SGP Police, au micro européen de Justin Morin. Dans ce contexte où les contaminations explosent, 58 000 recensés hier, et où le gouvernement menace de sanctions les entreprises réticentes au télétravail, cette information, Europe 1, seul un fonctionnaire sur trois est en capacité de télétravailler aujourd'hui. C'est même nettement moins que lors du premier confinement où l'on était à 1 sur 2.
Il y a aussi la question des congés payés. En effet, il reste à la charge des entreprises lorsque les salariés sont en chômage partiel. Un dossier qui s'annonce délicat à gérer, Carole Ferry.
Mais écoutez, le problème qui est sur la table, c'est que lorsqu'un salarié est en chômage partiel, il ne travaille pas, mais il continue à cumuler des jours de congés, 2 jours et demi par mois, des congés payés qui restent à la charge des entreprises. Et quand il y a plusieurs salariés, eh bien la facture peut rapidement grimper. C'est ce qui s'est passé par exemple pour Romain Bergot pendant le premier confinement. Il dirige un restaurant à Paris.
J'ai fermé pendant 3 mois. Donc chaque salarié cumule ses congés payés. 2 jours et demi par mois, fois 3 mois, fois 11 salariés. Ce qui représente au minimum 10 000 euros de congés payés à sortir. Sauf que pendant ce temps-là, on était fermé. Donc du coup, on ne faisait pas de chiffre d'affaires. C'est de l'argent qu'il faut sortir, alors qu'en face, il n'y a rien qui rentre, il n'y a pas de chiffre d'affaires, pas d'activité.
Alors l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie et de la restauration, demande à l'État d'intégrer ces congés payés dans la prise en charge de l'activité partielle. Pas question, répond le ministère du Travail, qui propose plutôt de revoir l'accord sur les congés payés en période d'activité partielle. Autant vous dire que l'idée fait bondir les syndicats. Selon nos informations, les premières rencontres sont prévues fin novembre.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
La deuxième vague, ce reconfinement partiel qui sème la pagaille dans les lycées. Il y a cet appel à la grève pour mardi d'enseignants qui disent ne pas pouvoir mettre en application le contrôle sanitaire.
Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Le ministre Jean-Michel Blanquer tente de calmer ce début de grogne.
Oui, Jean-Michel Blanquer annonce un renforcement du protocole sanitaire au lycée avec cette consigne. Il devient possible pour tous les chefs d'établissement d'organiser des cours à distance sous réserve de conserver au moins la moitié des cours en présentiel. Chaque proviseur fait ensuite comme il le souhaite dans son lycée, soit en divisant la classe par deux, par demi-groupe, avec une moitié des élèves en présentiel, l'autre à distance, une mesure pertinente dans les classes surchargées, soit en organisant un à deux jours de cours à distance, ou encore en accueillant les élèves par niveau, par exemple une semaine de cours en présentiel pour les secondes, puis la semaine suivante pour les premières et les terminales. Rien n'est imposé de manière uniforme sur le territoire, les lycées à faible effectif pouvant continuer en 100% présentiel.
Virginie, il y a cette autre annonce qui concerne, on est début novembre, qui concerne déjà le bac 2021.
Oui, c'est la réforme de Jean-Michel Blanquer et pour la deuxième année consécutive, sa réforme du lycée et donc du bac est ajournée. Le ministre a annoncé l'annulation pure et simple de toutes les épreuves d'évaluation communes de première et de terminale au profit du contrôle continu, à l'exception des épreuves de spécialité qui seront adaptées mais auront bien lieu en mars, ceci afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur la préparation du bac.
Virginie Rivage ajoute ces remontées d'incidents lors de l'hommage au professeur Samuel Paty à la rentrée lundi. 400 incidents recensés dans les établissements scolaires, 160 cas notamment de refus de participation ou de perturbation de la minute de silence.
Et puis on va s'aérer un peu l'esprit, humer l'air du grand large et s'imaginer filer à toute vitesse sur un voilier pour un tour du monde.
Oui, je crois qu'on en a besoin. C'est ce que va faire en tout cas Charlie Dalin, skipper au départ du Vendée Globe dimanche et qui est venu ce matin nous en parler sur Europe 1.
Ça ressemblera à n'importe quelle sortie en mer, un peu à l'image d'un match de foot qui se joue sans supporter. Après, une fois que le départ sera donné, ça changera strictement rien à une course hors crise sanitaire. Par contre, j'ai l'impression que ça nous donne encore plus pour mission de partager notre aventure avec les terriens, à faire voyager un petit peu le public pour penser à autre chose que cette année épidémique.
Charlie Dalin qui nous racontera sur europe1.fr et sur toutes vos applis de podcast tous les samedis à 11h son épopée autour du monde.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et il est l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une partie de l'opposition est-elle dans le déni sanitaire, comme le dit le gouvernement? Notre invité avait affirmé qu'il n'y aurait pas de seconde vague. A-t-il changé d'avis? Et quel est son avis actuel sur la stratégie du gouvernement? Réponse de Nicolas Dupont-Aignan, député et président de Debout la France.
A tout de suite, il est 8h13.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France.
Bienvenue et bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
Bonjour Sonia Mabrouk.
La bataille des voix se poursuit aux États-Unis. Donald Trump exige un arrêt du dépouillement. Est-ce irresponsable ?
Je n'en sais rien, moi j'attends de voir les résultats et j'attends de voir la situation. Ce que je sais en revanche, c'est que tout le monde prédisait une déroute de Donald Trump, la victoire du Sénat par les démocrates, le Sénat reste républicain et ça se joue sur un fil. Donc moi j'observe, je ne parle pas quand je ne connais pas, donc j'attends.
Mais si une bataille judiciaire s'engage, c'est un chaos qui peut s'installer, le risque d'un engrenage de la violence et de répercussions sur nous, Européens ?
Oh, je ne crois pas, je crois que c'est une grande nation qui va surmonter cette épreuve. Maintenant, moi je regarde, je ne parle pas de ce que je ne connais pas.
Alors, parlons de ce que nous connaissons. Est-ce que vous connaissez la situation en France? Et on va écouter d'ailleurs ce que vous disiez il y a quelques mois. Mais tout d'abord, la deuxième vague est là et elle est violente, a prévenu le ministre de la Santé, Olivier Véran. Vous ne remettez pas en cause, Nicolas Dupont-Aignan, cette situation?
Ah, je ne la remets pas en cause, je la regrette. Car si on avait pris les mesures que j'avais recommandées dès le mois de janvier, puis dès le mois de juillet, puis au mois d'août, qui consistaient à être beaucoup plus rigoureux sur les frontières, à offrir des masques FFP2 à nos anciens qui sont beaucoup plus protecteurs dans les EHPAD, à ne pas faire retravailler les personnes de maladies professionnelles comme a fait le gouvernement le 29 août. Il les a remis au travail, les diabétiques, les cancéreux. Il a supprimé l'indemnisation du travail. Si on avait augmenté les lits de réanimation comme j'ai demandé, et si on laissait la liberté de prescription médicale pour l'hydroxychloroquine, on n'en serait pas là.
Donc vous aviez anticipé, monsieur Dupont-Aignan, permettez-nous d'écouter,
oui,
d'écouter
vous
ce,
allez,
que vous
je sais ce que vous aviez
affirmé
montrer.
Cet été, en août.
Je vois des gros articles de journaux
totalement disproportionnée avec la réalité de l'épidémie qui, heureusement, est en voie de disparition de notre pays.
Vous avez changé d'avis depuis ?
Non, et alors c'est extraordinaire. Moi, je vais être très franc.
Il n'y a pas de seconde vague.
Il y a une seconde vague, bien sûr. Mais
vous disiez non en août.
Début août. Non, mais reprenons tout précisément. Et n'extrayons pas un extrait. Regardons toute la vidéo. Qu'est-ce que je disais début août ?
Je l'ai fait hier soir.
Je disais début août et reprenez toutes mes vidéos, notamment juste avant et juste après. Je disais qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de deuxième vague. Le ministre le disait lui-même. Le ministre disait, le président...
Le ministre disait attention. Il n'a jamais dit
dit attention, puisqu'il disait encore le 9 octobre devant le Conseil d'État, le représentant du ministre disait le 9 octobre devant le Conseil d'État, quand les malades de maladie ont remis en cause le décret qui les obligeait à retravailler, supprimer les arrêts de travail, il disait il n'y a pas encore d'épidémie grave, on peut les remettre au travail. Donc ce n'est pas vrai.
Mais il n'excluait pas de ce...
Mais moi non plus, si vous regardez toutes mes vidéos...
Mais est-ce qu'il ne faut pas arrêter les discours rassuristes et les yakas faucons ?
Non, je disais simplement, et je maintiens, que ce n'est pas par la psychose, la peur, ce n'est pas en tuant le pays qu'on va vaincre l'épidémie. Et si vous reprenez toutes mes vidéos, j'ai toujours dit la même chose. J'ai toujours dit que pour vaincre l'épidémie, il fallait des mesures ciblées. Ces mesures ciblées que le gouvernement ne prend pas et qui ont été prises en Asie, qui ont été prises dans certains pays d'Europe. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout arrêter pour vaincre l'épidémie. Et je maintiens, je persiste et je signe, c'est pas par la peur, la psychose, c'est au contraire en anticipant. Et je suis le seul.
Mais en anticipant, Sonia Mabrouk, monsieur le député, vous avez l'écharpe de la République. Est-ce qu'en disant qu'il n'y allait pas y avoir, qu'il n'y avait pas de seconde vague, n'êtes-vous pas dans le déni sanitaire ? Oui, mais c'est pas parce que tout le monde le dit que tout le monde a raison.
Je suis le seul à avoir demandé. Je suis le seul à avoir demandé qu'on double le nombre de lits de réanimation en prévention.
Comment ? Avec une baguette magique, monsieur le député, pour former un anesthésiste réanimateur, 11 ans.
Eh oui, mais ce que vous ne savez pas, et ce qu'on ne dit pas, c'est que chaque année, il y a des départs en retraite d'infirmières anesthésistes, d'infirmières de réanimation, d'anesthésistes. Et j'ai demandé qu'on les rappelle avec une forte prime, que sur les milliers qui partent en retraite, je sais qu'il y en a qui sont prêts à revenir. J'ai demandé que sur les 180 000 infirmières qui n'existent plus, qui n'exercent plus dans notre pays, 180 000, on puisse en faire revenir grâce à une vraie motivation salariale. Vous savez, les infirmières dans notre pays sont payés 20% de moins qu'en Europe. S'il y avait eu une vraie volonté, comme je l'ai demandé, notamment dans ces vidéos de juillet, d'août, d'anticiper, pas seulement parce qu'à l'époque, il n'y avait plus de deuxième vague, mais d'anticiper pour pouvoir assumer, pas seulement le
Monsieur
Covid,
Dupont-Aignan, oui.
Ce qui se passe tous les hivers.
Vous dénoncez les choix de l'exécutif, mais
je
comment vous expliquez que la grande majorité des pays européens reconfinent avec peu ou
c'est
prou,
pas vrai.
Avec peu ou prou les mêmes... On ne va
c'est
pas les citer
vrai.
Toutes.
Bon. Excusez-moi.
Donnez-moi un contre-exemple.
Oui, l'Allemagne n'a pas fermé les commerces de proximité. La Suisse
avec
n'a pas tout fermé.
Avec peu ou les mêmes mesures.
Non,
la Suisse,
voilà, soyons précis.
La Suisse,
soyons
depuis quelques
précis.
Jours, les restaurants également.
Oui, mais attendez, je n'ai pas dit... On me fait un procès d'intention. Je suis celui qui a le plus prévu les choses au sens de prendre des mesures ciblées sans paralyser le pays. On est aujourd'hui en France dans une situation dramatique parce que c'est le tout ou rien. Et je maintiens que si on protégeait bien nos personnes vulnérables, nos personnes âgées, les bons masques, si on avait augmenté le nombre de lits en faisant rappel des personnes compétentes et en mettant les moyens, ça aurait coûté beaucoup moins cher que le chaos dans lequel ce gouvernement est en train de plonger le pays.
Mais maintenant,
je maintiens qu'on peut doubler les lits de réanimation en quelques mois. Je maintiens qu'on peut rouvrir le Val-de-Grâce à Paris, qui est un hôpital vide, en parfait état, qui a été fermé scandaleusement.
Et monsieur le
je
député,
maintiens que
là,
dans beaucoup
à l'heure actuelle, vous maintenez
province,
qu'il y a une seconde vague, qu'elle est grave et qu'il faut
mais
arrêter les discours rassuristes.
Elle est grave parce qu'on n'a pas pris les mesures ciblées qu'ont pris les pays d'Asie sans paralyser le pays. La Corée du Sud n'a rien arrêté. La Corée du Sud a, depuis le début de l'épidémie, moins de morts qu'en une journée, nous, la France. Donc, je dis simplement, depuis le 26 janvier, vous pouvez reprendre toutes mes vidéos, je dis qu'on aurait pu affronter cette épidémie avec plus de rationalité, moins d'affolement, plus de précautions, en ciblant les mesures.
Sur le fond,
et je maintiens.
Sur le front du terrorisme islamiste, Nicolas Dupont-Aignan, le président de la République a affirmé hier, je le cite, « Le combat contre le terrorisme passe par le renforcement des contrôles aux frontières intérieures de Schengen. » Est-ce que c'est un premier pas, une décision qui va dans le bon sens pour vous ?
Alors, c'est évident que depuis le début, je dis, depuis des années, qu'il faut contrôler nos frontières nationales. Donc je me réjouis que le président de la République reconnaisse ce que sa majorité a toujours contesté. Maintenant, le problème, c'est de vraiment les contrôler. Or, je remarque qu'on est encore dans la communication, c'est-à-dire que le président de la République va sur la frontière, il dit qu'il va y avoir davantage de gendarmes, de contrôles, mais comme la règle de Schengen ne change pas, il ne la suspend même pas, il a le droit de la suspendre. Situation exceptionnelle, on a le droit de suspendre Schengen.
Attendons ses propositions.
Non mais attendez, il y a une situation grave ou pas ?
Personne ne le nie.
Il y a une situation très grave. Donc moi, j'ai toujours demandé, et c'est la base de tout, qu'on rétablisse le contrôle national aux frontières. Un pays qui ne maîtrise pas ses frontières ne maîtrise pas son immigration. Un pays qui ne maîtrise pas son immigration...
Et les frontières vont empêcher l'immigration et malheureusement empêcher in fine le terrorisme islamiste, si c'était si simple.
Les frontières sont un des éléments, avec par exemple la réforme du droit d'asile, c'est-à-dire que la demande de droit d'asile s'effectue à la frontière, pour éviter que les gens dont on la refuse restent sur le sol. La frontière est le point clé de tout pays démocratique. On a supprimé nos frontières, on a un chaos sécuritaire dans le pays, migratoire. Si on ne les rétablit pas, tout ne sera que des discours. Or, le problème principal pour lutter contre le terrorisme, c'est de passer des discours aux actes. Pas un acte, il n'y a pas un acte miracle.
Mais les discours sont importants parce qu'il faut nommer les choses, M. Dupont-Aignan. Emmanuel Macron a admis, sans amalgame, dit-il, que des terroristes utilisent les flux migratoires. Là encore, il ne masque pas la réalité.
Mais il ne la masque pas, mais il n'agit pas. Or, comment voulez-vous d'ailleurs que des gens qui se sont trompés depuis 20 ans sur ce sujet soit capable de prendre les bonnes mesures? En fait, il fait semblant. C'est trop lent. Il ne le fait pas. C'est exactement comme le rapatriement des djihadistes. Quand vous pensez qu'on a rapatrié ce gouvernement, ils ont rapatrié 170 djihadistes adultes.
Je ne sais pas si rapatriement est le mot qui convient.
C'est rapatriement, c'est-à-dire qu'ils ont fait revenir des djihadistes sur le sol français
pour
les juger.
Mais ils sont passage par la case prison.
Mais peut-être, sauf que vous savez qu'en 2020 et 2021... statistiques de M. Darmanin, vont sortir 105 terroristes condamnés pour islamistes
après
de prison.
Après avoir purgé leur peine.
Des peines très faibles, et qu'on va les laisser dans la nature parce que le Conseil constitutionnel a annulé une disposition sur le droit de rétention.
Oui, une disposition de qui ? Voulue par le gouvernement.
Qui
donc la
était
faute
insuffisante
qui
parce qu'elle était basée sur la base du volontariat.
Que faut-il faire alors par rapport au Conseil constitutionnel ? Mais c'est le Conseil constitutionnel qui l'a détricoté.
Il faut réformer la Constitution s'il le faut, mais on ne peut pas accepter que dans notre pays, on laisse rentrer qui on veut. Deuxièmement, que le droit d'asile soit détourné. Troisièmement, qu'on n'expulse pas les fichiers S radicalisés étrangers. Il y en a 4000.
Il y a une volonté de le faire.
Il y en a eu 16.
Monsieur le député, le problème, ce sont les pays en face, vous le savez.
Attendez,
pour cela qu'il y a une discussion en ce moment avec les pays du Maghreb, notamment.
Les Français n'en peuvent plus d'entendre ces faux arguments. C'est compliqué, on ne peut pas. Sauf qu'il y a des pays qui le font.
S'il y avait une baguette magique, on le saurait.
Écoutez, il y a des mesures à prendre qui ne sont pas prises. Expulsion systématique des étrangers, fichiers S, et notamment de ceux en situation irrégulière. On a appris qu'il y en avait 800 et que M. Darmanin voulait en expulser 230 et qu'il en avait expulsé 16. Donc il y a un moment, si vous voulez, où les Français ont très bien compris que les règles qui étaient en place aujourd'hui ne permettaient pas de lutter contre le terrorisme.
Pour conclure,
et c'est
Monsieur
pourquoi,
Dupont-Aignan,
depuis 5 ans, j'ai proposé 25 mesures précises et que j'attends qu'on les mette en place.
Vous avez
et
parlé
nous les mettrons
de la
en place
Constitution.
Un jour, parce que ce n'est pas ce gouvernement
pour
qui
conclure,
le fera.
Vous avez parlé de la Constitution, vous avez dit il y a quelques jours, il faut mettre dans la Constitution la laïcité. Vous l'avez relu dernièrement.
Mais je la connais, je sais que
alors vous connaissez l'article 1er.
Sauf que j'ai demandé, parce
la
que vous voyez,
France
tout
est
déformé.
La France
est
une république indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Tout est déformé. J'ai demandé un article qui explicite ce que c'est que la laïcité dans la Constitution pour que l'on puisse ensuite battre le Conseil constitutionnel et que le Conseil constitutionnel ne puisse pas annuler des dispositions parce qu'on précisera justement la laïcité dans la Constitution en disant que la laïcité, c'est que les lois républicaines s'imposent aux lois religieuses. Et justement, parce que ce mot laïque n'est pas explicité dans la Constitution, le Conseil constitutionnel nous interdit de prendre des mesures. Donc vous voyez, dès qu'on dit quelque chose, et surtout moi, dès que je dis quelque chose, on extrait une parole.
Non, c'est l'occasion de vous expliquer comme ce matin.
Je vous en remercie, mais attention à la vie médiatique qui ne permet pas d'expliciter les choses et de caricaturer les positions.
Merci.
Quand M. Bertrand dit qu'il faut la laïcité, personne ne lui dit qu'il
Merci.
A raconté n'importe quoi.
Nicolas
quand c'est
Dupont-Aignan,
moi,
et vous vous
on dit que j'ai raconté
notamment ce matin
quoi, je
sur
ne l'accepte
non,
pas.
C'est l'occasion de vous
car
expliquer.
Car je savais quand même qu'il fallait l'expliciter
d'avoir
davantage
été
dans
notre
un article
invité
précis.
Ce matin. Merci à vous et merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne
merci
journée,
Sonia
ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia, il est 8h28.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info, Hélène Zélani.
Et un suspense interminable. Ce matin encore, impossible de vous donner le nom du futur président des États-Unis, même si c'est de plus en plus serré. Seulement 1200 voix d'écart en Géorgie en faveur de Donald Trump, 11 000 pour Biden dans le Nevada. Joe Biden qui appelle à la patience, mais n'a aucun doute sur sa victoire. Son équipe prévoit d'atteindre les 270 grands électeurs dans la journée. Donald Trump lui dénonce des fraudes et un scrutin qu'on tenterait de lui voler. Théo Manval, vous avez rencontré de fervents partisans des Républicains à Kittanning, petite ville industrielle de Pennsylvanie où il ne reste plus qu'une seule usine de charbon. Là-bas, l'idée que Biden devienne président est une catastrophe.
Oui, et ça leur met même les larmes aux yeux. J'ai peur, sanglote Lonnie. Joe Biden et sa promesse de sortir des énergies fossiles seraient une catastrophe ici, dit-elle.
Tout est déjà parti. Le charbon, c'est la dernière chose qui nous reste. Toutes nos usines ont fermé, on n'est plus qu'un squelette de ce qu'on était avant. Je ne sais pas comment on survivra s'il nous enlève ça. Je suis désolée.
Joe Biden a promis encore hier qu'il rejoindrait à nouveau les accords de Paris dès le début de son éventuel mandat. C'est dur d'imaginer ça, poursuit Lonnie, persuadé qu'il n'y aura plus de travail pour sa petite fille. Détresse donc, colère aussi, mais surtout résignation ici des soutiens de Donald Trump. John, par exemple, ne croit pas du tout en ses recours en justice.
Vous savez, on est en démocratie, donc il faut faire confiance au système comme il est. Accepter les résultats, qu'ils nous plaisent ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne.
D'autres comme Ray redoutent des heurts. Mais dans les grandes villes, dit-il, pas ici. La bataille judiciaire s'annonce longue et vu l'état de tension dans le pays, cela pourrait vite déraper.
Théo Manval, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Pennsylvanie. Donald Trump risque donc de quitter la Maison-Blanche au grand désespoir de ses partisans. Perdre, ce n'est pas dans son ADN. Il va donc déployer tous les moyens légaux. Mais en tout cas, il aura tout de même réussi à fidéliser sa base. C'est ce qu'explique Gérard Haro, ancien ambassadeur de France aux États-Unis.
Il n'admettra jamais sa défaite. C'est un narcissique pathologique qui ira jusqu'au bout. Et je suis convaincu que même s'il doit quitter la Maison-Blanche, ce qui est quand même vraisemblable, pendant des années, il répétera qu'on lui a volé son élection. Et ce qui est beaucoup plus grave, des millions d'Américains le croiront. Parce qu'il a réussi à fidéliser une base politique de 35 à 40% des Américains, comme on l'a vu. Cette élection, il est battu, mais c'est pas une mauvaise élection pour lui. Et ce qui est beaucoup plus grave encore, il va sans doute faire des discours assez virulents, il va jeter de l'huile sur le feu dans un pays qui, il faut bien le dire, vit sur les nerfs depuis 4 ans, et où tout le monde a des armes. Donc, on a déjà vu des Trumpistes s'approcher des centres où on dépouille les bulletins avec des armes. N'y aura-t-il pas un moment, un incident ? C'est tout à fait possible.
Voilà l'inquiétude de Gérard Haro, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, invité de Sébastien Krebs ce matin à 6h40 sur Europe 1. Donald Trump, dont il faut le souligner, le discours de cette nuit a été interrompu par plusieurs télés américaines. Elles ont estimé que c'était de la désinformation.
Oui, coupé complètement le discours du président Trump. Et puis un autre épisode de la nuit, vous vous souvenez sans doute de Steve Bannon, cette figure de l'extrême droite américaine, ancien conseiller de Donald Trump. Eh bien cette nuit, il a appelé à décapiter le docteur Fauci, l'expert du gouvernement en maladies infectieuses, le docteur Fauci et Christopher Wray, le directeur du FBI. Les décapiter et placer leur tête sur des pics de chaque côté de la Maison Blanche. Les violences contre Fauci et Wray pourraient s'inscrire dans le cadre d'une guerre civile, dit Steve Bannon. Twitter a définitivement supprimé son compte.
L'actualité en France, c'est cette deuxième vague brutale qui se propage rapidement, selon les mots d'Olivier Véran hier soir. 4420 patients en réanimation, 367 décès en 24 heures. Mais le ministre de la Santé n'annonce pas de nouvelles restrictions et c'est peut-être là que le bât blesse. Europe 1 vous dévoile ce matin la note que le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a présentée à Emmanuel Macron et Jean Castex juste avant le Conseil de défense de mardi. Dans ce document que vous avez pu consulter, Victor Delande, il estime que le confinement ne semble pas assez strict.
Oui, dans cette note confidentielle qui circule entre très peu de mains, Jérôme Salomon dresse un constat alarmant. Selon lui, le confinement ne serait pas assez efficace à cause des établissements scolaires laissés ouverts, ainsi que les services publics et le maintien des visites dans les EHPAD. Avec ces mesures actuellement mises en place, il prévient, il ne semble pas possible d'obtenir un taux de reproduction du virus, vous savez le fameux R, à 0,7 comme en avril lors du premier confinement, mais plutôt à 0,9. Ce qui veut dire concrètement que l'inflexion flexion de la courbe sera plus lente avec, je cite, un plateau haut et prolongé. Dans cette perspective de longues semaines très dures pour les hôpitaux, Jérôme Salomon estime que la région Auvergne-Rhône-Alpes, la plus touchée actuellement, aura besoin d'un soutien massif à court terme, avec davantage de transferts interrégionaux et même des évacuations en train vers l'Allemagne. Cette note, dans laquelle chaque mot est pesé, c'est un nouvel avertissement de la sphère scientifique au gouvernement. Reste donc à savoir si elle sera suivie d'actions concrètes et si le gouvernement durcira ses mesures dans les prochaines semaines pour casser la courbe de l'épidémie plus rapidement.
Victor Deland, en ce qui concerne l'éducation, pandémie oblige, du changement pour le bac 2021. Jean-Michel Blanquer annonce l'annulation des épreuves d'évaluation commune en première et terminale au profit du contrôle continu, ainsi que le renforcement du protocole sanitaire dans les lycées avec davantage de cours à distance. Le ministère de l'Éducation qui recense au total 400 incidents dans toute la France lors de la minute de silence de lundi en hommage à Samuel Paty. 164 cas de refus de participation, 150 d'apologie du terrorisme, environ une dizaine de ces événements vont donner lieu à des suites judiciaires.
Merci Hélène Zélani, 8h36.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Eh bien, finalement, les brouillards ne sont pas très nombreux, contrairement à ce que l'on pensait. Les brouillards se situent essentiellement sur la Haute-Loire et la Saône-et-Loire. Mais dans les autres régions, ils semblent assez discrets, en tout cas selon nos cartes. Il faut dire que ceux qui observent les brouillards d'ordinaire, souvent, sont les gendarmes et les policiers. Et ils ont d'autres choses à faire en ce moment. Sur le Piémont pyrénéen, le Languedoc, le Roussillon, les Cévennes, le Midi-Pyrénées et l'Aquitaine, là, nous avons des informations plus sérieuses. Elles viennent des radars. Et donc, ces radars montre que les nuages sont très présents, que le vent est très fort, venant de la Méditerranée, et montre donc sur ces radars, on voit aussi que les pluies ne sont pas très loin et qu'elles vont arroser essentiellement le Languedoc et le Roussillon. Qu'y a-t-il encore ? Si sur les côtes atlantiques, nous aurons dans l'après-midi un passage de nuages qui va s'incruster comme sur les régions du sud-ouest, et c'est le temps de demain. Demain, il pleuvra le long des côtes atlantiques et dans le sud-ouest de la France, ainsi que sur le golfe du Lion. Ce sont les seules régions qui seront marquées par les intempéries demain samedi. Dimanche, sont plutôt les régions de l'Est qui seront touchées à leur tour. Les températures entre 13 à Paris, jusqu'à 19 degrés. C'est la fourchette du jour.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Et tous les matins, vous le savez, sur Europe 1, nous prenons soin les uns des autres. Notre planète, dans un instant, notre santé, tout de suite avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce matin, vous avez souhaité, Jimmy, attirer notre attention sur l'utilisation des anxiolytiques, ces médicaments que certains prennent contre le stress. Vous craignez qu'avec ce reconfinement, la consommation augmente ?
Oui, alors c'est vrai que vous l'avez dit, c'est des médicaments qu'on utilise comme contre le stress. Alors, on les connaît tous, le Valium, le Lexomil, le Xanax ou le Seresta. Le problème, c'est que lors du premier confinement, les prescriptions avaient bondi de 20%. Ça représente 1 million d'ordonnances supplémentaires. Et le problème, c'est qu'avec ce deuxième confinement, qui risque de durer encore de nombreuses semaines, eh bien, il ne faudrait pas qu'on prenne ces mauvaises habitudes d'en prendre régulièrement. Car je vais vous citer simplement trois effets secondaires. Le premier, c'est celui lié directement aux médicaments, avec des troubles de la mémoire, de la somnolence et un risque d'accident et de chute, notamment chez les personnes âgées. Le deuxième, c'est lié à la dépendance avec un phénomène qu'on appelle de tolérance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous prenez ce traitement pendant un certain temps, vous prenez 3 comprimés par jour pendant de nombreux jours, et bien au bout d'un moment, ces 3 comprimés ne vont pas suffire à votre cerveau et vous allez en avoir besoin d'un peu plus, un peu comme avec la cigarette. Et puis, il y a le phénomène de sevrage. Si vous en prenez pendant très longtemps et que vous arrêtez brutalement cette consommation, et bien vous allez être en manque, comme quand vous manquez d'alcool ou d'un autre toxique, et donc vous allez vous sentir angoissé, agité, dans un état secondaire. Donc vous l'aurez compris, ces traitements sont loin d'être anodins.
Et il doit y avoir quelques règles simples pour limiter leurs effets, non ?
Oui, alors évidemment, il n'est pas question de stigmatiser les personnes qui doivent en prendre. Il n'y a pas de problème si jamais votre médecin vous dit qu'il faut en prendre. Il faut respecter la prescription. Mais néanmoins, quand on vous en prescrit, si on vous en donne pendant 2, 3, 4 semaines, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout du traitement. Ça peut être ponctuel. Si au bout de 2, 3 jours ou même au bout d'une semaine, vous avez l'impression que vous allez mieux et que vous n'en avez plus besoin, ne continuez pas le traitement. Il faut prendre la dose minimale efficace. Attention aux interactions avec d'autres médicaments. Vous avez un risque de somnolence et puis surtout, pas d'alcool. alcool et anxiolytiques, ça fait mauvais ménage puisque vous risquez une dépression des systèmes respiratoires. Ça veut dire quoi ? D'être dans le coma et de vous étouffer. Donc ne prenez jamais d'alcool avec des anxiolytiques. Maintenant, si jamais vous avez un niveau de stress qui est permanent, qui vous empêche de vivre tous les jours, car le stress est normal en cette période et il est normal d'aller un peu moins bien, il faut l'accepter. Mais si ça vous empêche d'aller au travail, de vous habiller, de vous occuper de vos enfants, et bien là, vous avez besoin d'un traitement de référence qui est la psychothérapie avec des antidépresseurs. Les anxiolytiques ne sont pas le traitement de référence de l'angoisse. S'il y a une seule chose qu'il faut retenir de tout ce que je vous ai dit, c'est que les anxiolytiques, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique.
Merci, c'est pratique en même temps tous ces médicaments hic parce qu'on pourra l'utiliser à l'envie. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, qu'on retrouve de 15h à 16h avec Mélanie Gomez, sans rendez-vous. Notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un appel que vous lancez, ma chère Fanny, nous sommes le 6 novembre et vous nous parlez de Noël. Vous lancez un appel à un Noël sans paillettes.
Sans paillettes, effectivement. Alors, ce n'est pas pour venir ternir un peu plus ce Noël 2020 qui s'annonce déjà assez morose que je vous incite à faire sans. C'est parce que les paillettes sont devenues un fléau environnemental, qu'elles soient sur nos vêtements, dans la cosmétique ou sur les objets décoratifs. Eh bien, on s'est rendu compte que l'impact n'était pas proportionnel à leur taille, bien qu'inférieure à 5 mm. Elles font de très, très gros dégâts dans les milieux aquatiques, si bien que trois grandes enseignes britanniques viennent de l'annoncer et elles ont d'ailleurs fortement communiqué là-dessus. Elles ont choisi de bannir les paillettes de leurs produits pour les fêtes de fin d'année en espérant que d'autres marques dans leur sillage franchissent aussi le pas.
On a du mal à imaginer l'impact des petites paillettes sur l'environnement. Où est-ce qu'elles vont ces paillettes ?
Alors, les paillettes, faut le savoir, ça ne se recycle pas du tout. C'est un produit à usage unique par excellence. Elles arrivent inévitablement dans les égouts et échappent aux différentes étapes de traitement en station d'épuration, car trop petites, elles passent à travers les grilles pour arriver, eh bien, c'est facile à deviner, dans les rivières, puis dans les océans, des paillettes par milliards. C'est presque joli d'imaginer les océans scintiller. Mais oui. Cette décoration qui agrémente les festivités, elle est composée de petits éléments de plastique superposés à de l'aluminium pour en donner l'aspect brillant. Des paillettes qui, d'année en année et au fil des Noëls, jonchent aujourd'hui le plancher océanique et se retrouvent dans la nourriture des animaux marins.
Au point, vous nous dites que nous mangerions nous-mêmes aujourd'hui des paillettes à Noël ?
Alors, si vous aimez les fruits de mer, sachez que les principaux éboueurs des océans sont les mollusques et crustacés, comme les moules, les huîtres, les bulots, et encore, qui vont filtrer l'eau. On dit qu'ils ont un régime détritivore, ils vont ingurgiter ces déchets qu'ils vont ensuite métaboliser. Alors le comble serait donc de s'offrir pour les fêtes de fin d'année un plateau de fruits de mer et de manger des paillettes, celles-là même qui décoraient notre table l'an passé.
Merci Fanny Agostini. Notre planète, il est 8h43.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité, Nicolas Dupont-Aignan. Sonia ? Ah. Sonia Mabrouk.
Non, pardon, pardon, je reparle le thème. Non, il n'y a pas du tout Sonia
Mabrouk. Faut peut-être ouvrir votre micro.
Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas Nicolas Dupont-Aignan ni Sonia Mabrouk. Oh, on est juste un tout petit peu en retard. On attaque tout de suite, si vous voulez bien, Julie, avec l'accord de nos auditeurs, tout de suite, l'émission. C'est parti.
Allez. Allez-y, Mathieu. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, en principe, pardon, excusez-moi.
Vous êtes un peu paumé.
Oui, j'étais un peu paumé dans mes fiches, pardon. Oui, parce que c'est une émission mouvementée ce matin, c'est les élections américaines. Donc, bonjour, bienvenue, Europe One, American Election, bienvenue sur Europe 1.
Voilà, on y est.
Europe One, vous écoutez le monde changé. Listen to the world changing. L'actualité, ce matin, the actuality, c'est Joe Biden, qui n'a jamais été aussi proche, disons-le, de la Maison Blanche. Tout de suite, la réaction de Donald Trump. Allez, on se calme. Qu'est-ce que c'est ce gros chagrin ? Hein ? C'est un caprice, ça, Donald ? Oh là là, les gosses, Julie, franchement, les gosses, c'est quand même fou. Donald Trump demande à ce qu'on arrête de compter parce qu'il veut gagner, mais on se rend compte que si on arrête de compter maintenant, il paume. Voilà. Et je vous fais une confidence, c'est ce gars-là qui a dirigé les États-Unis pendant 4 ans.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Enfin, ça devrait bientôt être Joe Biden. Mais au fait, tiens, Europe 1 va plus loin. Qui est Joe Biden ? Un petit point avec vous, Stéphane Bern.
Europe One. But I promise you this. I am your voice. The American election.
Oh là 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 là, merci Mathieu, dis donc, ça c'est du jingle pour me lancer. Oui, allez, un peu d'histoire, découvrons donc, et découvrons celui qui est le plus vieux candidat à la présidentielle américaine, Joseph Robinette Biden. Déjà, ce deuxième prénom est fantastique, ouais. Robinette.
Oui, c'est son middle name, on a vérifié sur Wikipédia, c'est comme ça qu'il s'appelle, Joseph Robinette Biden.
C'est fou,
c'est dingue, hein.
C'est Robinette Biden, c'est comme si, c'est parce que comme si vous vous appeliez, cher Mathieu, Mathieu Lavabotte Béliard. ou, je ne sais pas, Laurent Siphonette Cabrol.
Voilà, oui, c'est, aussi, hein, ouais.
Voilà, c'est ça.
Enfin, Dieu merci, ce n'est pas le cas. Alors, revenons à Joe Biden, Stéphane.
Alors, on sait très peu de choses sur l'enfance de Joe Biden, puisqu'il est né avant l'invention. Il y a très peu de documents, il est né avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1454. Fils d'émigrants, il est déjà proche du pouvoir puisqu'il arrive en Amérique avec Christophe Colomb en 1492. Christophe Colomb, le célèbre frère de Gérard, qui lui a fait une belle carrière en France, mais ça c'est une autre histoire que je vous narrerai une autre fois. Joe Biden s'intéresse ensuite à la politique au niveau national, grâce à son camarade de classe, Abraham Lincoln. Il aurait pu être enrôlé lors de la guerre de sécession ou la Première Guerre mondiale, mais heureusement, il a déjà 60 ans en 1914. Et ses rhumatismes lui permettent d'être réformé.
Allez, mais vous racontez n'importe quoi, Stéphane, allons.
Oui. Je sais vu.
Oh, ça c'est un peu vu, oui.
Non, je suis désolé. Oui, pardon. Non, c'est vrai, je me suis un peu emballé. Non, c'est parce que je vais vous dire une chose. Je voulais pas vous lasser parce que sa véritable histoire, Joe Biden, elle est un peu chiante. Pardonnez-moi d'être trivial. Oui, parce qu'il est né au siècle passé. Voilà, qu'a-t-il fait de la politique ? Puis un peu de chirurgie esthétique, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on sait de lui. On sait simplement qu'il a abusé un peu trop sur le Botox, mais que son dentier est tout de même assez réussi. Et aujourd'hui, c'est vrai, comme le pape, il va gouverner à vie jusqu'à sa mort, puisque ce sera dans 6 ou 8 mois, d'après nos prévisions. Voilà, enfin, c'est Jimmy Mohadet qui l'a confié. Voilà. Lundi, je vous parlerai de Donald Trump en vous racontant d'où vient l'expression « con comme un balai ». À vous, Julie.
Oh, bah vivement lundi, alors.
Avec
merci,
Mathieu
Stéphane.
Noël.
Merci. Allez, un genre de couvre-feu est désormais décrété à Paris. Les restaurants ne pourront plus faire de vente à emporter après 22h. Bonjour Anne Hidalgo.
Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour à tous les Parisiennes et les Parisiens. Écoutez, ce n'est pas de gaieté de cœur. Car Paris, de fermer, d'avoir ces points de vente qui ne pourront plus donner de choses à emporter après 22h. Oui. Parce que Paris se meurt sans ces petits commerçants, sans ces marchands typiques qui font le charme de notre belle capitale qui est Paris. Les marchands de cigarettes de contrebande à Barbès, les Congolais, charmants Congolais qui vendent des tours Eiffel en plastique et des petits chapeaux en forme de parapluie près du Champ de Mars, tellement saillants. Les joueurs d'accordéon de la ligne 13, les faux réfugiés syriens qui ont des panneaux en carton avec des fautes d'orthographe faites exprès. Tous ceux qui contribuent à la vie commerciale et au charme de Paris. Tous les jours, je pense à eux. Tenez bon, amis commerçants.
Allez, bah, qu'ils vous entendent alors. Merci, Anne Hidalgo. Bruno Le Maire, lui, a listé les fameux produits essentiels par décret. Mais la situation n'est pas encore claire hein, pour tous les commerçants. Certains se rebellent. Tiens, d'ailleurs, on retrouve notre ministre de l'économie. Il est dans un supermarché.
Chers adhérents, chers clients, bienvenue dans votre magasin Super U. Voici la liste des produits essentiels que vous trouverez à votre disposition dans les rayons. Les granolas sont classés essentiels. Pépito, essentiel. Les Pimps, pas essentiels. Ah, ce chocolat avec de l'orange dedans, c'est dégueulasse. Ça doit être des Anglais qui ont dû faire la recette. Les BN chocolat essentiel. Les BN à la fraise chimique, pas essentiel.
Monsieur le maire, vous êtes sur Europe 1, là, c'est Julie.
Julie, pas essentiel.
Non, mais ça va pas.
Si.
Merci beaucoup.
Fayot.
Alors, les Français sont mécontents de la fermeture des petits commerces. Ils auraient aimé avoir plus d'endroits, plus de lieux pour faire leurs courses.
Non mais franchement, Madame Julie, les Français n'ont pas arrêté de râler parce que soi-disant, ils payaient trop d'impôts. Soi-disant, ils ne s'en sortaient plus financièrement.
Ah, oui.
Et là, qu'est-ce qu'on constate en première pandémie mondiale, le premier truc qu'ils veulent faire, c'est du shopping. De qui se moque-t-on, en tout cas. Franchement, si j'avais su, si on avait su qu'il leur restait autant de pognon, on leur aurait pris.
Hein, ah, allez, allez. Bon, il y a encore...
Autant vous dire qu'on est un peu sec en ce moment.
Oui, c'est ça, ouais, ouais. Il y a encore quelques flous, par exemple, sur les produits cosmétiques. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas?
C'est un vrai débat.
Bah oui. Écoutez, bah oui.
Par exemple, un déo. En rentrant dans ce studio, je me suis dit, tiens, c'est essentiel.
Oh, c'est pas le métro ici, alors.
Vous êtes, on sent que vous êtes attaqué tôt le matin. Dans le métro, c'est essentiel, un déo. Ou chez les chauffeurs parisiens, plein de gens. Voilà, c'est essentiel. En revanche, les produits de maquillage ne sont pas essentiels. Uh-huh. Alors vous allez me dire, si, le produit de maquillage peut être essentiel pour une moche. Par exemple.
Arrêtez.
Donc nous rajouterons un décret dans votre attestation de course, une case marquée « Je suis moche, j'ai besoin de maquillage ». Vous voyez, on s'adapte au gouvernement.
Ah oui, oui, on voit ça. Oui. Merci Bruno
Le
Maire.
Je laisserai quelques exemplaires dans l'entreprise Europe 1.
Oh oui. Merci à vous. Emmanuel Macron a annoncé hier des contrôles renforcés aux frontières pour lutter contre l'islamisme. Pourtant, Éric Ciotti a déclaré « Nous combattons l'islamisme avec des boulets aux pieds ». Éric Ciotti, bonjour.
Oui, bonjour Mme Leclerc. Écoutez, avant toute chose, je voulais revenir sur les propos de Bruno Le Maire. Mmh. Le shampoing, ça n'est pas essentiel.
Vous parlez pour vous, là ?
Les éponges, si. Oui, oui, les éponges. Parce qu'il faut bien se coiffer, M. Cabrol. Mais pas le shampoing. Enfin,
oui, bon,
je ne le crois pas. C'est ma conviction personnelle.
Oui, c'est bon, M. Ciotti. On peut revenir sur les propos d'Emmanuel
bien
Macron.
Bien sûr, des éponges normales, pas non, avec du scotch-brite.
Scotch-brite, oh là là, ça doit faire mal. Alors, on peut revenir sur les propos du président de la République.
Oui, écoutez, Emmanuel Macron peut bien prétendre qu'il agit, mais... Nous ne sommes pas dupes, le gouvernement ne fait rien.
Ah, tiens, il y avait longtemps.
Et en plus, quand bien même, il le fait mal. On combat, je l'ai dit, je le répète, les islamistes avec des boulets aux pieds.
Oui, bon, ça va, on a compris. Christian Estrosi veut une loi pour légaliser la reconnaissance faciale.
Écoutez, ça me fait mal de le dire, mais Christian Estrosi a raison. Il a raison. Oh, vraiment, ça...
Ah, ça vous fait mal ?
Ah oui, ça me fait mal de le dire. Ah oui, je ne le redirai pas deux fois. Il faut légaliser la reconnaissance faciale.
Mais enfin, on a tous un masque en ce moment, ça ne va jamais marcher.
Oui, alors c'est vrai, c'est vrai que c'est un peu con du coup.
Ben oui.
Mais en même temps, nous ne sommes que des hommes. Comment voulez-vous qu'on reconnaisse un musulman d'un islamiste ? Il n'y a que l'intelligence artificielle qui peut y arriver pour... Parce que pour moi, je vous dis une chose, c'est tous les mêmes, c'est des Arabes. Voilà.
Oh là là, oui, bon, effectivement, il vous manque une intelligence artificielle. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut un Guantanamo à la française ?
Évidemment, ça me paraît, un Guantanamo à la française, ça me paraît tout à fait concomitant. Oh. Hein. On arrête des terroristes tunisiens, mais la Tunisie, elle ne veut pas les récupérer. Il faut bien les mettre quelque part, Mme Julie, alors.
Bah oui.
Ben oui, il faut les mettre quelque part.
Ben oui, mais oui, il faut les mettre quelque part. Vous avez encore quelque chose à dire, mais on va passer à autre chose.
Non, mais vous devez me poser la question où, par exemple, concrètement.
Ben non.
Puisque je dois tout faire et les questions et les réponses. Mais bravo, mais... Europe 1.
Où, par exemple, alors où?
Eh bien, vous soupçonnez qu'il faudrait construire un camp fermé en quelques jours, ce n'est pas possible. C'est ça que vous voulez me dire. Mais écoutez,
ben oui.
Ce camp fermé, ce camp clos, il existe. Disneyland a fermé ses portes jusqu'à février. Je peux vous dire qu'un terroriste islamiste radical qui va entendre 24 heures sur 24 la musique du parc... Mais forcément, comme nous tous, à la fin, le type, soit il se suicide, soit il avoue tout.
Et voilà.
Toute la journée, je peux vous le garantir. Merci Nicolas Canteloup, merci Julie. Et bon week-end. Tiens, la revue de presse à écouter tout le week-end. Si ça vous manque demain matin, après-demain, n'hésitez pas à la revue de presse sur Europe 1.fr. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas, bravo à eux. 8h57, Philippe Vandel est là. Culture oui. Média sur Europe 1, c'est la matinée qui continue.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez le DAB+ ?
Non, je connais le DAB, là, la position des footballeurs quand ils mettent un but.
Vous êtes pas loin, le DAB+, c'est le nouveau don de la radio numérique terrestre, technologie qui permet d'écouter plus de stations radio avec une meilleure qualité sonore. Elle arrive aujourd'hui Et là, Julie devrait me dire.
Ça arrive, ça y est.
Oui, à Bordeaux, à Arcachon. On va en parler avec un spécialiste du sujet.
Julie, c'est dans le
Nicolas
texte, enfin.
Curien, du Conseil supérieur de l'audiovisuel du CSA. Et puis. Thalassa qui revient désormais, c'est le dimanche après-midi, avec un nouveau visage. Elle s'appelle Sabine Quindou, on la connaît. Elle était dans C'est pas sorcier avec Fred et Jamy. Et puis enfin, une star, une nouvelle star, Bilal Hassani, des millions de fans et un nouvel album, son deuxième, il s'appelle Contre-soirée. Il a choisi Culture Média pour en parler. Il sera avec nous.
Oui, c'est sorti à minuit.
Exactement.
C'est sorti, c'est tout frais, Contre-soirée.
Là, vous êtes au courant.
Et c'est dans Culture Média.
Exactement.
Je faisais semblant pour le DAB+ pour avoir un bon mot, mais. Ouais. Non, mais ça y est, ça arrive enfin, parce que j'y croyais plus du tout, moi, la radio
numérique.
Alors,
il y en a 2 millions en France, mais en Suisse, c'est déjà quasiment installé.
8h58, c'est Culture Média de 9h à 11h avec Philippe Vandel, la matinée qui continue sur Europe 1. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. C'est Pierre de Villeneuve qui va vous réveiller samedi et dimanche. Je reviens lundi matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.